Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens. Mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Dixit Gérald Darmanin, 4 policiers suspendus après les violences contre un homme à Paris. Le ministre de l'Intérieur va demander leur révocation. Des policiers qui risquent les assises. On va vous expliquer pourquoi. Le gouvernement renforce les aides pour les entreprises en difficulté, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Des aides de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. En France, les taux se desserrent, les indicateurs sont bons. Nous sommes même parmi les meilleurs élèves de l'Europe, meilleurs encore que les Allemands. Dans ce journal, la France envoie un nouvel avion d'aide humanitaire pour les Arméniens obligés de quitter le Haut-Karabakh. Ils ont tout perdu.
On voit des photos postées par les soldats azéris dans notre village, dans nos maisons. C'est dur pour nous, mais on a l'espoir d'y retourner un jour.
Et puis nous irons à Buenos Aires qui célébrait hier le culte de Diego Maradona, défilé ininterrompu devant son cercueil avant l'enterrement dans l'intimité familiale.
Juste après ce journal, patronat et syndicats qui se mettent enfin d'accord sur un cadre pour le télétravail. L'éclairage écho de Nicolas Barret juste avant le regard international de Vincent Hervouette. Les footballeurs français qui dénoncent le tabassage de ce producteur de musique parisien par des policiers, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ces images, elles ont été vues 9 millions de fois. Des policiers qui se déchaînent à coups de poing sur un homme dans l'entrée d'un studio de musique parisien. Elles sont issues de la vidéosurveillance et ont fait le tour des réseaux sociaux toute la journée d'hier. Les 4 policiers impliqués sont donc suspendus. D'abord les 3 qui avaient frappé, puis le 4e arrivé en renfort qui a lancé une grenade lacrymogène. Guillaume Bié, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans cette affaire, les policiers sont évidemment accusés de violence, mais pas seulement. Ce que vous nous dites, c'est qu'ils auraient aussi menti sur le procès-verbal par rapport à ce qu'on voit sur les images.
Ah oui, il y a un large fossé, presque un gouffre entre les deux versions. Dans le procès-verbal d'intervention que nous avons pu consulter, l'un des policiers écrit « Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de force dans l'enceinte du bâtiment. » Or, ce n'est pas du tout ce que montrent les images. Dans la débâcle, poursuit le rapport, l'homme tente à plusieurs reprises de saisir notre arme. Invisible sur la vidéo, démenti par la victime. Tout comme la suite, nous recevons à plusieurs reprises des coups au visage. En réalité, c'est sur le producteur que des dizaines de coups pleuvent longuement. Pourtant, ils ne sont jamais mentionnés dans le procès-verbal. Tout juste, le fonctionnaire évoque à 2 reprises des coups de matraque télescopique dont l'individu parvient à se saisir, peut-on lire, ce que l'on ne voit pas sur les images. Voilà pourquoi le parquet de Paris a ouvert une enquête pour les violences, mais aussi pour faux en écriture publique, un soupçon encore plus grave pour les policiers. C'est un crime qui pourrait les conduire devant une cour d'assises.
Merci Guillaume Bié.
On va écouter Gérald Darmanin à présent. Il était invité hier soir du 20h de France 2, le ministre de l'Intérieur qui compte révoquer ces policiers.
Ces images, elles sont inqualifiables, elles sont extrêmement choquantes. Et dès que j'ai pris connaissance de celles-ci, de ce qui s'était passé, j'ai demandé la suspension de ces policiers. Et dès que les faits seront établis par la justice, puisqu'elle est saisie, je demanderai la révocation de ces policiers. Ils ont sali l'uniforme de la République. Et si, encore une fois, la justice démontre en effet ces faits qui font peu de doute, alors oui, ils ne devront plus porter cet uniforme, ils seront révoqués de la police nationale. Si on prend ces sanctions, c'est évidemment en pensant à cette personne qui a été agressée, bien sûr, mais c'est aussi pour protéger l'immense majorité des policiers et des gendarmes qui font, dans un contexte extrêmement difficile, chacun le sait, un travail admirable. Je pense que les Français soutiennent leurs policiers. Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens sans faille. Mais le contrepartie de ce soutien, c'est évidemment l'exigence du ministre de l'Intérieur pour le respect absolu de la loi et de la déontologie. Lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent quitter ce travail, ils doivent être punis par la justice.
Et selon nos informations, Emmanuel Macron était très en colère en découvrant la vidéo. Lors d'une entrevue à l'Élysée, il a demandé à Gérald Darmanin de l'apaisement, mais aussi des sanctions très claires. Une commission indépendante va également proposer une nouvelle écriture du fameux article 24 de la loi Sécurité globale. Article qui concerne, vous le savez, la diffusion d'images de policiers.
7h05 sur Europe 1. Le confinement s'allège. À partir de demain, balade jusqu'à 20 km pendant 3 heures et réouverture des commerces, mais avec une jauge de 8 mètres carrés par client.
Oui, les entreprises touchées de plein fouet par la crise auront droit à une aide de 15 à 20% du chiffre d'affaires. Ça concerne notamment l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel. Les stations de ski pourront rouvrir, mais pas les remonter. De quoi plonger cet hôtelier des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie dans des abîmes de perplexité, comme il l'a dit à Carole Ferry.
Évidemment, François Gauthier a été soulagé en écoutant les annonces de Jean Castex. Propriétaire d'un hôtel de 40 chambres face au Mont-Blanc, il sait désormais qu'il aura droit à un filet de sécurité s'il perd plus de la moitié de son chiffre d'affaires cet hiver. Ça, c'est pour l'hôtel, mais il a aussi un bar, un restaurant, de la location de ski. Bref, un vrai casse-tête en perspective.
Quand on parle de 15 à 20% pour l'hôtellerie, c'est pas pareil que 20% pour la partie restauration, c'est pas pareil que 0% pour la partie location de ski. Et nous avons des activités qui sont en fermeture administrative, d'autres qui ne le sont pas. Donc les questions se posent et de voir comment on va organiser tout ça.
Sa priorité toutefois pour le moment, c'est d'ouvrir le 15 décembre. Des clients lui ont promis de venir même s'ils ne peuvent pas faire de ski. Alors il faut être ingénieux.
Nous allons essayer d'ouvrir avec la possibilité d'offrir à chaque chambre réservée un espace privatif de restauration dans lequel les gens pourront prendre librement leur repas du soir dans l'hôtel.
Avec des repas en click and collect, alors il ne sait pas si cette fin d'année sera rentable, mais ce qu'il souhaite surtout, c'est faire plaisir à ses clients pour les revoir l'année prochaine.
Et puis une aide est également prévue pour les saisonniers. Ils auront une garantie de ressources de 900 euros par mois jusqu'en février prochain.
Des annonces de Jean Castex qui nous demandent de ne pas baisser la garde face à l'épidémie.
15 000 cas quotidiens de Covid en moyenne sur les 7 derniers jours. Nous sommes parmi les meilleurs élèves européens et même devant l'Allemagne, Victor Delande.
Oui, alors il faut d'abord préciser que les Allemands n'ont pas les mêmes restrictions qu'ici. On parle là-bas de semi-confinement. Les bars et les restaurants sont fermés depuis le 28 octobre, mais tous les magasins sont restés ouverts et les habitants peuvent aller et venir sans contrainte. Reste que si on regarde les chiffres, l'Allemagne a enregistré 18 000 nouveaux cas quotidiens lors des 7 derniers jours. C'est 3 000 de plus qu'en France. Le taux de reproduction, lui, est bien inférieur dans l'Hexagone, 0,56 contre 0,87 en Allemagne. Le nombre de décès chaque jour est presque équivalent entre les deux pays. Enfin, si on regarde les admissions en réanimation, elles restent inférieures de l'autre côté du Rhin, 3800 contre un peu plus de 4000 en France. Mais les courbes sont en train de se croiser. Là où la décrue s'accélère, ici, l'Allemagne connaît, elle, un plateau haut et prolongé. Mais attention à toute forme de chauvinisme sanitaire. Nous ne disposons pas des mêmes réserves. Quand les hôpitaux français comptent 9000 lits de réanimation en poussant les murs, il y en a près de 3 fois plus en Allemagne.
Victor Delande.
Je reçois tout à l'heure l'ancien footballeur Youri Djorkaeff, champion du monde de 98, mais aussi ambassadeur pour une mission humanitaire en Arménie.
Oui, il s'envole en effet tout à l'heure à bord de l'avion cargo affrété par la France, le deuxième qui doit apporter de l'aide aux populations arméniennes qui vivaient dans le Haut-Karabakh et ont été chassées par l'offensive de l'Azerbaïdjan. Hélène Terzian, bonjour.
Bonjour.
Plus de 100 000 personnes se sont retrouvées sur les routes.
Oui, ces Arméniens ont tout laissé derrière eux. Certains sont même allés jusqu'à brûler leur propre maison pour ne pas qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. On a vu des images d'exode, des routes encombrées, de voitures surchargées. Siranush est une mère de famille. Elle a quitté son village de Talish, là où elle a toujours vécu.
On est parti sans rien, sans affaires, sans vêtements, sans rien. On n'avait qu'une préoccupation, c'était de sauver les enfants des bombardements. En partant, jamais on aurait cru que le village passerait sous contrôle azéri. Depuis, on vit là, on attend ce que va nous dire l'État. Les seules nouvelles qu'on a de chez nous, on les a sur Internet. On voit des photos postées par les soldats azéris dans notre village, dans nos maisons. C'est dur pour nous. Mais on a l'espoir d'y retourner un jour.
Retourner un jour au Haut-Karabakh, là où son fils et son mari sont restés après avoir combattu. Ce sont majoritairement des femmes qui se réfugient aujourd'hui en Arménie avec leurs enfants. Des réfugiés dont la présence est un défi majeur pour l'État et les associations humanitaires. Il a fallu mobiliser des hôtels, des structures d'accueil et même des familles pour trouver un logement à chacun d'entre eux.
Hélène Terzian et donc Youri Djorkaeff à 7h40. Aux États-Unis, Donald Trump reconnaît progressivement sa défaite pour la première fois. Il annonce qu'il quittera la Maison Blanche si les grands électeurs élisent Joe Biden le 14 décembre prochain. Vote qui ne sera qu'une formalité.
Des cris, des pleurs et surtout des maillots bleus et blancs. L'Argentine faisait hier ses adieux à son idole, Maradona.
Toute la journée, des milliers de personnes ont défilé devant son cercueil au palais présidentiel, la Casa Rosada. Des fans, parfois déchaînés au point que des incidents ont été éclaté avec les forces de l'ordre, récit de la correspondante d'Europe 1, Aude Villiers-Moriamé.
Lorsqu'est venu le moment de fermer la chapelle ardente au public, peu avant 16h, des affrontements ont éclaté entre la police et les supporters qui étaient encore très nombreux à vouloir entrer à la Casa Rosada pour rendre un dernier hommage à leur idole. Des heures de chaos ont suivi, la police a tiré des balles en caoutchouc, plusieurs personnes ont été arrêtées. Le calme n'est revenu qu'en fin d'après-midi lorsque le cortège funèbre a quitté la Casa Rosada. De nombreux motards et automobilistes ont accompagné le corbillard sur la route du cimetière. La journée avait pourtant commencé dans le calme. Dans la matinée, des milliers de personnes ont attendu patiemment leur tour pour entrer au palais présidentiel, comme Cecilia Castro, 38 ans.
D'un côté, je suis contente que tant de personnes soient venues lui dire au revoir. Il le mérite. Mais d'un autre côté, je suis triste. Je n'ai plus de larmes après tout ce que j'ai pleuré hier. Je ne pouvais pas y croire.
Adrian Benardoni, 33 ans, était venu rendre hommage à l'ancien joueur en famille avec son épouse et son bébé. Il est ressorti de cette veillée funèbre très ému.
Il a apporté beaucoup de joie aux gens et il méritait qu'on lui dise adieu de cette façon. C'est une légende, une idole mondiale.
La dépouille de Diego Maradona a été enterrée dans la soirée au cimetière de Bella Vista, en grande banlieue de Buenos Aires. L'ex-joueur star repose désormais aux côtés de ses parents. Aude Villiers-Moriamé, Buenos Aires, Europe 1.
Et Hélène, est-ce que vous connaissez Carlos Bilardo ?
Personnellement, non.
C'est l'ancien entraîneur de l'équipe d'Argentine. Il a aujourd'hui 82 ans. Il ne sait toujours pas que Diego Maradona est mort. Voulez-vous le raconter ? Sa famille a préféré lui cacher la nouvelle à cause de sa santé fragile. Il disait toujours de Diego Maradona qu'il était le fils qu'il n'avait pas eu.
Et puis en Italie, hier soir, les joueurs de Naples sont tous entrés sur le terrain avec le même maillot, le numéro 10 de Maradona.
Avec ces images des supporters que vous avez peut-être vus autour du stade, ce qui s'appellera stade Diego Maradona, des fumigènes rouges. Et dans les rues de Naples, on a célébré la mémoire de Diego Maradona.
Et puis les joueurs, ils ont gardé ce maillot le temps de la minute de silence avant d'entamer la rencontre de Ligue Europa contre les Croates de Rijeka. Et ils l'ont d'ailleurs emporté 2-0. En revanche, Nice, battu 3-1 par le Slavia Prague, est quasiment éliminé.
Les pompiers qui sonnent à votre porte pour vous vendre le traditionnel calendrier avec images d'intervention ou joli chaton, c'est au choix. Ça ne risque de ne pas arriver cette année.
Eh oui, porte-à-porte impossible, mesures sanitaires obligent. Reste une seule solution, le vendre sur Internet, ce calendrier. Mais forcément, ça ne marche pas aussi bien. Mélina Fachin s'est rendue dans une caserne de Strasbourg.
Il est bien là, imprimé à des milliers d'exemplaires dans de grands cartons, le calendrier 2021 des pompiers de Strasbourg. Mais cette année, le commandant James Fridley et ses hommes ont dû renoncer à contre-cœur à le vendre en porte-à-porte.
Ça permet d'avoir un contact avec la population. C'est aussi une reconnaissance de la population à notre égard. Les gens veulent nous remercier et nous récompenser en fait en achetant notre calendrier. Ce contact avec la population permet parfois de développer des vocations à devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel. C'est quelque chose qui va nous manquer.
Et puis il y a l'aspect financier. Le calendrier a rapporté 60 000 euros l'année dernière aux pompiers de Strasbourg. Une enveloppe, comme l'explique l'adjudant Sandy Maître d'Hôtel, qui permet d'améliorer le quotidien des casernes.
C'est un petit peu une deuxième maison. Donc cette cagnotte nous permet l'achat de canapés, d'abonnements à différents paquets de télévision, du matériel audio, des petits conforts comme ça, qui permettent effectivement, sur les périodes de repos, d'avoir un confort qui soit présent.
Les Strasbourgeois qui veulent aider leurs pompiers peuvent donc acheter leur calendrier en ligne sur le site Hello Asso. Pour l'instant, moins d'une centaine ont été vendus contre 15 000 l'année dernière. Strasbourg, Mélina Fachin pour Europe 1.
Et Mathieu, si vous voulez l'acheter ce calendrier, vous allez sur le site helloasso.com.
Merci Hélène Zélani, c'est très clair, c'est précis, on a même le mode d'emploi. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un homme qui s'engage à 7h40, l'ancien footballeur Youri Djorkaeff qui part ce matin pour une mission humanitaire en Arménie. Il est allé personnellement convaincre Emmanuel Macron d'affréter un cargo français. Il sera dans l'avion ce matin au secours de 120 000 Arméniens déplacés par le conflit du Haut-Karabakh. Le champion du monde 98 qui nous raconte son engagement dans son pays d'origine, Youri Djorkaeff, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le télétravail est là pour durer. Pourtant, il est bien là en studio avec nous ce matin, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Patrons et syndicats en ont pris acte et se sont mis d'accord sur le cadre, enfin d'accord si j'ose dire, qui va régir la vie des salariés dans les années qui viennent.
Oui, c'est vraiment ça, un cadre général pour une pratique qui était relativement marginale avant la crise du Covid, mais qui est en train de se généraliser. Cet accord a été signé hier entre le patronat et les syndicats, à l'exception de la CGT, toujours en retard d'une guerre par rapport aux évolutions de la société et des attentes du monde du travail, d'où d'ailleurs son recul année après année. Les autres, en revanche, CFDT, FO, CGC, CFTC, ont bien compris l'intérêt d'avancer pour encadrer une pratique qui intéresse la vie de millions de salariés.
Encadrer sans que cet accord ne soit normatif.
Alors ça, c'était un point clé, effectivement, du patronat qui n'a pas transigé. Cet accord national n'impose pas de nouvelles obligations légales aux employeurs. Il y en a une collection déjà dans le Code du travail. Cet accord est plus une sorte de code de bonne conduite. Il indique par exemple que le télétravail doit faire l'objet d'un double volontariat de l'employeur et du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. Il précise que le choix des postes télétravaillable pourra être discuté avec l'employeur. Il insiste sur la nécessité de maintenir le contact entre les salariés en télétravail et les autres, sur le fait qu'il faudra procéder à des retours d'expérience, comme après une longue période de télétravail à 100% comme on en a vécu. Bref, c'est un accord qui se fait le reflet des préoccupations que l'on a bien vu surgir ces derniers mois où le travail, oui. Télétravail a été massif.
Oui, ce sont des réponses à pas mal de questions voilà. Qu'on a pu se poser ces derniers mois. Alors, une fois que ce cadre général est posé, c'est aux entreprises de négocier la mise en œuvre.
Oui, et heureusement, les modalités du télétravail sont renvoyées donc au dialogue social dans les entreprises. Pas question d'imposer les mêmes règles partout. C'est là le désaccord profond aussi entre la CGT et les autres syndicats. Le télétravail va s'installer durablement dans le paysage, mais avec des modalités qui seront très différentes d'une branche à l'autre, d'une entreprise à l'autre, au sein même de la même entreprise, d'un métier à l'autre. Bref, cet accord national très général fixe un socle qui va donner le coup d'envoi à la négociation d'une multitude d'accords locaux dans les entreprises. Cet accord en lui-même n'est donc pas une révolution, mais il acte le fait que le télétravail va s'ancrer profondément dans la vie des entreprises. Au fond, c'est une révolution lente qui commence.
Merci Nicolas Barré.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouet à 7h18. Bonjour Vincent.
Mais bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'Australie fête la libération d'une universitaire détenue depuis plus de 2 ans en Iran.
Oui, Kelly Moore Gilbert enseignait les études islamiques à l'université de Melbourne avant d'assister à une conférence en Iran. Les gardiens de la révolution l'ont accusée d'être une espionne israélienne. Les juges n'ont pas cru à cette mauvaise blague puisqu'ils l'ont condamnée à 10 ans de détention au lieu de la pendre. Elle a passé 800 jours en prison. Et peu de nuit, puisque ses geôliers laissaient la lumière allumée dans ses oubliettes. Elle a subi un vrai calvaire, sans visite, sans téléphone, sans médecin, avant d'être enfin transférée à la prison d'Evin, devenue aussi célèbre dans le monde que la conciergerie pendant la Révolution. Ce n'est pas que l'Iran prenne des innocents en otage qui surprend. C'est sa spécialité. En témoignent les diplomates américains capturés à Téhéran, les Français enlevés à Beyrouth, les chercheurs binationaux jetés au cachot. La curiosité, c'est que le régime ne ménage pas ses otages, il les écrase. Il ne suffit pas de détenir un occidental pour faire plier son gouvernement. Il faut aussi manifester sa toute-puissance, son indifférence implacable envers les mécréants.
L'universitaire a été échangé contre 3 Iraniens détenus depuis 8 ans. En
oui, les pieds nickelés du terrorisme venus à Bangkok pour assassiner l'ambassadeur d'Israël, ils ont fait sauter une bombe à leur domicile. En fuyant, ils en ont jeté une autre sur la police qui a rebondi contre un arbre avant d'exploser dans les jambes d'un des tueurs. On l'a vu hier en chaise roulante à son retour à Téhéran, accueilli en héros par le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, un ministre pour 3 assassins.
Ce sont des fantassins de la guerre secrète.
Alors ça prouve que la République islamique n'a que mépris pour les mœurs policées de la diplomatie. Elle continue sa course nucléaire, elle envoie ses commandos contre les opposants en exil, elle recourt aux tueurs contre Israël, aux otages contre l'Occident. Et ceux qui s'imaginent que la victoire de Joe Biden va simplifier l'équation iranienne seront déçus. Il a promis de renégocier l'accord sur le nucléaire. Inclure le contrôle des armes balistiques ou des milices régionales sera difficile. Changer la nature de ce régime de gangsters, impossible. Joe Biden sera l'otage de sa promesse.
Merci beaucoup Vincent Hervouet. Et Vincent, puisque vous êtes avec nous, j'en profite. Vous nous aviez parlé de l'arrivée historique des liaisons aériennes entre Israël et les Émirats arabes. Eh bien, les passagers du premier vol commercial direct sont arrivés hier entre Dubaï et Tel Aviv. La compagnie à bas prix Fly Dubaï a lancé cette première liaison. 2 mois après l'annonce, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle d'un moment historique.
C'est un moment historique car c'est le premier vol commercial entre Dubaï et Israël. Il y en aura beaucoup d'autres dans les deux sens, mais vous ne pouvez être le premier qu'une seule fois et c'est un moment charnière. Donc l'histoire est en marche et vous êtes les premiers. Alors bienvenue et revenait encore, encore et encore.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'aéroport Ben Gurion, hier donc après le premier vol direct entre Dubaï et Israël. 7h21.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, Mbappé, Griezmann, Mendy, Lacazette, les footballeurs français s'engagent, ils prennent position après la diffusion d'images du tabassage d'un producteur de musique parisien par des policiers. L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
De nombreux sportifs français et notamment des footballeurs comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann se sont émus hier du passage à tabac d'un producteur de musique noire par des policiers à Paris. Ils ont dénoncé le racisme et les violences policières. Pour vous, on a passé un cap dans l'engagement des sportifs et c'est rassurant de les voir prendre parole, dites-vous.
Les sportifs sont des citoyens comme les autres. On leur a tellement reproché de vivre dans leur tour d'ivoire qu'on ne peut que se réjouir de les voir s'emparer des sujets d'actualité. Les sportifs sont des citoyens comme les autres et ils ont le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. La vidéo du passage à tabac de Michel par des policiers a révolté des millions de gens hier. Et les footballeurs en font partie. Kylian Mbappé parle de violence inadmissible et dénonce le racisme. Antoine Griezmann dit qu'il a mal à sa France. On doit les écouter parce que leur voix compte comme les autres. On doit les écouter parce qu'ils portent le maillot bleu et qu'ils n'ont pas forcément envie de représenter un pays dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Puis on doit les écouter parce que leur parole est rare, très rare sur des sujets de société et que leurs messages d'hier font date. On avait l'habitude de les voir s'engager contre le racisme derrière des slogans importés des États-Unis comme Black Lives Matter. Là, ils interpellent directement le gouvernement français. On a passé un cap. Ils ont pris conscience de la force et du retentissement de leurs paroles de sportifs. Marcus Rashford y est sans doute pour beaucoup. Le joueur de Manchester United s'est emparé du sujet des repas gratuits pour les enfants pauvres en Angleterre. Il a interpellé son gouvernement et il a fait plier le Premier ministre Boris Johnson. Aujourd'hui, les footballeurs français s'engagent sans se cacher. Et oui, ça fera date.
Alors, il y aura forcément du monde pour leur reprocher leur engagement.
De toute façon, s'ils réagissent à un sujet, on leur demande de s'occuper de leur match. Et s'ils ne le font pas, on leur reproche de s'en moquer. Là, il y a une réaction naturelle de citoyens et de sportifs qui ont ressenti le besoin de crier leur colère et d'aller plus loin que d'habitude en interpellant le gouvernement. L'engagement des sportifs, en fait, pour être audible, doit venir directement d'eux et pas être préfabriqué. Et c'est ce qui se passe en ce moment, contrairement à ce qu'on a vu après l'assassinat de Samuel Paty, par exemple. La Fédération française de football avait tourné un spot avec des joueurs de l'équipe de France pour rappeler l'importance de l'école et de la liberté d'expression. L'intention était louable, évidemment, mais c'était un petit peu artificiel. Les joueurs récitaient leur texte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le message, hein, attention. Mais il ne peut pas y avoir d'injonction à réagir. Parfois, ils peuvent aussi ne pas trouver les mots. Hier, ils les ont trouvés et c'est beaucoup plus naturel, par exemple, que l'étiquette Black Blamber qu'on a voulu coller à l'équipe de France 1998. Je crois que vous recevez Youri Djorkaeff tout à l'heure, vous aurez peut-être l'occasion de lui en parler, Mathieu.
Oui, issu de cette équipe de France, Black Blamber, champion du monde 98, je retiendrai que l'engagement, hein, il faut qu'il soit sincère, finalement. Et c'est un homme engagé que nous aurons à 7h40, Youri Djorkaeff, qui s'engage pour l'Arménie. Hein. C'est le sujet dont nous allons parler, mais je lui parlerai évidemment de ses réactions de footballeur. Merci Virginie Fulpin. Il est 7h26 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Cet après-midi dans Historiquement Vaud, nous recevons Philippe Geluck. L'occasion était trop belle pour moi. Voici donc deux expressions pour le prix d'une. Elles ont un point commun, celle de contenir le mot chat, mais pas forcément l'animal.
Alors le mot chat, mais pas forcément l'animal. Là, je sens que nous prenons une pente dangereuse, Stéphane. Votre chronique va être friponne.
J'en ai bien peur, Mathieu. Pour la première expression, bon, c'est avoir d'autres chats à fouetter. Il faut savoir qu'elle apparaît au XVIIe siècle. Étrangement, en Angleterre, on dit « to have other fish to fry », comprenez, avoir d'autres poissons à faire frire. Voilà qui met en appétit. Selon Alain Rey, le grand linguiste récemment disparu, fouetter n'était pas à l'époque à prendre au sens fouetter avec un fouet. Fouetter devait être compris comme une façon argotique de désigner l'acte sexuel. Cela explique la présence du chat qu'on fouette. Chat qui évoque, vous l'avez compris, l'intimité féminine.
Je l'avais
C'est
compris.
Exactement la même logique qui prévaut dans la formule « appeler un chat un chat ». C'est au XVIIe siècle également que l'expression est employée pour la première fois. Et déjà à l'époque, on se plaignait de ne pas pouvoir toujours appeler les choses par leur nom, les prémices du politiquement correct en quelque sorte. Le chat ici évoque encore une fois ce qui se passe sous le jupon. Boileau a popularisé l'expression en disant « j'appelle un chat et Rollet un fripon », Charles Rollet étant un procureur malhonnête. Notez qu'en Grèce, on dit « appelez les figues et la bassine, la bassine ». Voilà qui est logique et chez nos amis hollandais, on préfère « appeler la petite bête par son nom », tout un programme.
Stéphane, on vous retrouve à 16h tout à l'heure, historiquement vôtre.
Oui, absolument Mathieu, ils sont belges. On réunit trois belges qui ont marqué l'histoire. Adolphe Sax qui a laissé son nom à sa plus belle création, le saxophone. Sœur Emmanuelle, la petite sœur des pauvres qui était belge avant de demander la nationalité égyptienne. Et Philippe Geluck avec un portrait où Mathieu Noël devrait être forcément plus clément qu'à l'accoutumée puisque le dessinateur du chat sera avec nous en studio pour nous accompagner tout l'après-midi. Bref, on vous raconte l'histoire belge cette fois. C'est tout à l'heure, de 16h à 18h sur Europe 1.
Et la boucle est bouclée. À tout à l'heure, 16h, Stéphane.
À tout à l'heure.
7h29, Laurent Cabrol avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et il fait froid. Ça n'étonnera pas Stéphane, puisque nous ne sommes pas à la mi-août. Nous sommes vraiment...
Oh, joli, Laurent.
Oui, ça, c'est un peu facile quand même. Moins 1 à Nancy, 2 à Strasbourg, 5 à Lyon, 7 à Lille, 8 à Paris, 9 à Bordeaux, 12 à Marseille. Telles sont les températures actuelles. Je n'ai pas suffisamment parlé de la vigilance orange qui a été émise pour les Pyrénées-Orientales, la Corse, durant la nuit prochaine, puisque nous aurons là de fortes pluies. Les pluies ne sont pas encore très fortes sur la Méditerranée, mais elles arrivent. Les pluies ne sont pratiquement pas inexistantes, très modérées, sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, mais elles ne persisteront pas au-delà de la matinée. Eh ben dis donc. Les côtes de la Manche, la vallée de la Loire, seront sous des nuages, et les Ardennes, comme la région parisienne, trouveront quelques éclaircies, un voile simplement sur la Bourgogne, la Champagne, la région Rhône-Alpes et le Poitou.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Comme on dit, dans le milieu, on a un temps de confinement, on a des conditions de confinement, c'est-à-dire que le premier confinement, on a eu des vagues parfaites, et là, on rebelote, on est encore avec des conditions qui sont idéales, et vivement samedi.
Mais vivement samedi, ils comptent les heures, les surfeurs de la côte atlantique, mais aussi les golfeurs, les commerçants autorisés à rouvrir, les fidèles qui vont retrouver leur messe, même en comité réduit. Dès demain, l'étau des restrictions sanitaires se desserre. Dans l'actualité, Gérald Darmanin demande la révocation des 4 policiers qui ont tabassé un producteur de musique. En parallèle, l'IGPN a rendu son rapport sur l'évacuation musclée d'un camp de migrants en plein Paris, c'était lundi soir. Et puis l'état des lieux sur l'utilisation du glyphosate en France. On fait le point à la fin de ce journal.
Juste après ce journal, Youri Djorkaeff au chevet de son pays d'origine, l'Arménie, départ d'un cargo humanitaire français dans le tête-à-tête Europe Matin. Nous appelons le champion du monde 98 juste avant qu'il ne décolle. Nicolas Bétou lance un avis de recherche. Où est passé le Macron de 2017? C'est l'édito politique juste avant de retrouver Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale aujourd'hui, Alain Griset, ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1, 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est évidemment pas un retour à la vie normale, mais ça s'en rapproche tout doucement. J-1 avant la première étape du déconfinement progressif annoncé par Emmanuel Macron. Et donc quelques changements dans notre quotidien à partir de demain.
1 km, 1 heure, déjà vous oubliez. Un peu plus de liberté dans nos pratiques sportives. Déjà, place aux 3 heures et 20 km aussi pour se balader. Autre nouveauté, la reprise du sport amateur en plein air.
Bonjour Stéphane Place.
Bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, forcément, les surfeurs et les golfeurs sont ravis. Hein.
Oui, vous l'entendez, l'océan qui gronde là derrière nous. Belle vague, bouillon d'écume, grand ciel bleu. Ici à La Cano, les surfeurs comptent les heures. Et ce n'est pas l'eau à 14 degrés qui gâchera leur plaisir demain. Laurent Rondy préside le comité de surf de la Gironde.
C'est un soulagement, forcément. Quand on voit là toutes les études qui sortent sur l'impact psychologique que peut avoir le confinement, il est clair que le fait de pratiquer dans un environnement comme l'océan une activité sportive, ça permet justement de s'évader et on n'attend que ça. Ouais. Enfin, moi, perso, je fais pas de footing, mais par contre, je vais à l'eau 2 à 3 fois par semaine.
Et à quelques kilomètres de la plage, les golfeurs vont également retrouver le sourire dès le feu vert gouvernemental donné pour la reprise. Les inscriptions ont explosé. Alexis Marchive dirige le YouGolf de La Cano.
Déjà 150 ou 180 réservations pour samedi. On peut rejouer à 4, ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est une attestation de 3 heures, incluant les allers-retours de leur domicile. Ça sera juste 9 trous. On aura un protocole sanitaire, il y aura du gel hydroalcoolique bien évidemment un peu partout. Et c'est une vraie délivrance sur le plan économique en tant que gestionnaire. Le fait de pouvoir voir le bout du tunnel, c'est la meilleure nouvelle de la semaine.
Surfer, golfer, à condition, on insiste un peu là-dessus tout de même, de rester dans un rayon de 20 km autour du domicile.
Évidemment, merci beaucoup Stéphane Place, correspondant.
Merci, je le dis sincèrement, merci cette bouffée d'air marin comme ça avec Stéphane Place à La Cano. Je suis sûr
un
que ça fait du bien à beaucoup de nos auditeurs.
On continue à parler de ce qui nous attend demain. Ce sont aussi les commerces dits non essentiels qui vont enfin pouvoir rouvrir. Librairies, boutiques de jouets, de vêtements ou encore salons de coiffure. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il y aura des règles strictes comme cette nouvelle jauge. Un client pour 8 mètres carrés. Comptage obligatoire aussi pour les magasins de plus de 400 mètres carrés. Alors concrètement, Élise Dangean, comment les commerçants vont-ils procéder ?
Eh bien, chacun sa technique, mais on est globalement loin du système D mis en place à la sortie du premier confinement. Pour beaucoup de commerçants, le comptage sera réalisé par un membre du personnel, souvent à l'aide d'une application mobile capable d'alerter dès que la jauge est atteinte. Ce sera le cas par exemple chez Jouet Club, Maison du Monde ou encore Carrefour. D'autres comme Lidl ont fait le choix d'un système automatisé via des capteurs placés aux portes de leur magasin, beaucoup plus efficace selon Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl France.
C'est d'une simplicité enfantine. Chaque chef de magasin pilote en fonction de sa surface de vente. C'est électronique, c'est automatique. Une fois que le nombre est atteint, eh ben les portes restent fermées et c'est comme ça.
En tout cas, l'argument semble faire mouche puisque les entreprises spécialisées croulent sous les demandes. C'est le cas de Checkpoint, explique son directeur grand compte, Eric Silva.
En 3-4 jours, on a eu 5000 demandes. Tout le monde veut s'équiper très rapidement et on fera au mieux pour servir tout le monde.
Mais ces systèmes ne suffisent pas toujours. Dans les centres commerciaux, par exemple, des attroupements peuvent se former malgré le respect de la jauge. Du personnel sera donc mobilisé à cet effet.
Les explications d'Élise Dangean.
La reprise des cultes aussi à partir de demain, mais toujours avec une jauge de 30 fidèles maximum dans les églises. Le gouvernement a tranché hier.
Décision qui est loin de satisfaire les catholiques comme ceux de la paroisse Saint-Nicolas de Cannes. Ils se sont confiés à Frédéric Michel.
Il va y avoir des gens qui seront frustrés. Moi, j'ai pas envie de faire la police à l'entrée de mon église. J'ai pas envie de compter les gens.
Il y a quelques semaines, le père Guy Largillière n'avait pas voulu manifester contre l'interdiction des célébrations en public. Mais aujourd'hui, le curé de la paroisse Saint-Nicolas de Cannes ne comprend pas l'obstination du gouvernement et se dit profondément déçu.
Dans une grande église comme celle du Suquet ou comme celle de Notre-Dame de Bon Voyage, où on peut mettre plusieurs centaines de personnes, ma foi, 30 personnes, c'est pas tellement justifié. Ça nous tombe dessus comme ça, on ne comprend pas.
Puisque le nombre des fidèles est compté, Virginie a pris la décision de ne plus aller tous les dimanches à la messe. Cette jeune catholique cannoise préfère laisser sa place à des personnes plus âgées, mais se dit triste d'être empêchée dans sa foi.
Pour certains, c'est inadmissible de ne pas pouvoir acheter des décorations, faire ses cadeaux. Mais pour nous, en tant que paroissiens, Noël, c'est très important. On a besoin d'aller à la messe. Et dans cette période où justement c'est encore plus difficile, où on a encore plus besoin de prier, d'être en communion avec les autres.
Et pour permettre à un maximum de fidèles d'assister à la messe, les prêtres de la paroisse Saint-Nicolas ont décidé de mettre les bouchées doubles en organisant deux fois plus de célébrations.
Et Jean Castex recevra dimanche les représentants catholiques pour discuter une nouvelle fois de la limitation à 30 personnes. Le gouvernement qui ouvre la porte à une évolution de cette jauge si la situation sanitaire continue de s'améliorer.
7h36 sur Europe 1, à la une de l'actualité aussi ce matin, ces images d'une extrême violence. Interpellation controversée à Paris le week-end dernier.
Un producteur de musique de 41 ans roué de coups par 4 policiers. Ceux-ci ont été suspendus. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande leur révocation, les accusant d'avoir, je cite, « sali l'uniforme de la République ».
Et c'est dans ce contexte que l'IGPN a rendu hier son rapport sur les incidents de la place de la République. Là, c'était à Paris lundi soir.
Et là aussi, les images ont provoqué la colère sur les réseaux sociaux. Images qualifiées de choquantes par le ministre de l'Intérieur, qui avait donné 48 heures à la police des polices pour enquêter. Sur les 3 faits étudiés par l'IGPN, Gladys Laffitte, il y a bien eu au moins un manquement ce soir-là.
Oui, un commissaire a fait un usage disproportionné de la force. Rappelez-vous de ces images, un policier qui fait un croche-pied à un migrant habillé en blanc qui courait dans les rues de Paris. C'est cet acte-là que la police des polices estime injustifié. Dans son rapport, l'IGPN juge que ce geste risquait de blesser gravement cet homme alors qu'il ne présentait aucune menace pour les biens et les personnes. Un manquement dénoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il a d'ailleurs demandé la réunion d'un conseil de discipline pour que des sanctions soient prises contre le commissaire. Autre vidéo et autre geste, le coup de pied d'un policier vers un manifestant appelé chassé frontal. Ici, pas de manquement, dit l'IGPN. La technique apprise en école de police a permis de repousser sans blesser des manifestants jugés agressifs. Enfin, ce même policier, accusé d'avoir frappé le journaliste Rémi Buzyne, nie tout acte de violence. Cette seule vidéo ne montre pas de coup porté, dit l'IGPN, qui continue de chercher d'autres vidéos et témoignages. Le journaliste n'a lui pas encore été entendu. L'enquête continue. continue donc.
Aux États-Unis, Donald Trump commence tout doucement à reconnaître sa défaite. Pour la première fois, il a déclaré qu'il quitterait la Maison Blanche si la victoire de Joe Biden était confirmée.
La sortie du glyphosate. Où en est la France ? Il y a 3 ans pile, Emmanuel Macron promettait son abandon en cette fin d'année 2020.
Alors l'objectif n'est pas totalement atteint, mais on peut choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, car la France n'est pas si mauvaise élève que ça par rapport à ses voisins. L'état des lieux avec Virginie Salmen.
Nous ne sommes qu'à la moitié du chemin, moins 50% d'utilisation de glyphosate si on compte les nouvelles interdictions formulées le mois dernier. Dans l'agriculture, qui représente l'essentiel des usages, le produit est désormais interdit partout où on peut faire autrement. Par exemple, entre les pieds de vigne, entre les arbres fruitiers, pour désherber, il faudra passer le tracteur plutôt que de vaporiser de l'herbicide. Mais la substance reste autorisée dans les zones difficiles d'accès. Et puis la SNCF n'utilisera plus de glyphosate pour désherber les voies ferrées d'ici fin 2021, même si ça ne représente que 0,5% des volumes vendus en France, la compagnie va acquérir de nouveaux trains désherbeurs qui utiliseront d'autres substances et cibleront davantage les herbes qui compliquent le passage des trains. Mais si on regarde les autres pays d'Europe, la France n'est pas spécialement à la traîne. La grande majorité n'a pas encore de date de sortie du glyphosate. Seul le Luxembourg, qui représente 0,1% de la production agricole, l'interdit à partir du 1er janvier prochain. L'Allemagne, elle, s'est fixé un objectif à 2023.
Virginie Salmen.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On a parlé des sorties 20 km, 3 heures. Demain, les commerces peuvent rouvrir et peut-être sauver leur saison. C'est l'enjeu hein, qui se joint à cette question sanitaire, évidemment. Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, invité politique d'Europe Matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15. Mais tout de suite, l'engagement de la France auprès des Arméniens déplacés suite au conflit au Haut-Karabakh. L'engagement d'un Français. Un cargo humanitaire part ce matin avec Youri Djorkaeff à bord, le champion du monde 98 d'origine arménienne. Nous l'appelons avant le décollage. Le tête-à-tête Europe Matin dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h41 sur Europe 1. Au moins 120 000 Arméniens déplacés du Haut-Karabakh. Dans le conflit avec l'Azerbaïdjan, le cessez-le-feu a mis fin au combat. Pas à la situation humanitaire catastrophique sur place. Juste après 8h, un cargo humanitaire décolle de Paris pour l'Arménie. Il a sollicité le président Macron et il sera à bord tout à l'heure. Mon invité, l'ancien footballeur champion du monde en 98, Youri Djorkaeff.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Youri Djorkaeff.
Bonjour.
Alors il faut d'abord décrire la situation. C'est pour cela que vous vous engagez personnellement aussi pour alerter. Le conflit au Haut-Karabakh, ce sont 120 000 Arméniens déplacés. Certains vivent dans des conditions insoutenables.
Oui, c'est la réalité du terrain. De ce cessez-le-feu, la bonne chose, c'est justement que les combats ont cessé. Et ce qui a permis à l'aide humanitaire de commencer, et sous l'impulsion de la France, mais la France a tout de suite répondu. Il y avait un sentiment un petit peu où l'Arménie s'était retrouvée seule. Mmh. Et je pense que c'était important que la France intervienne dans un premier temps sur l'aide humanitaire et sûrement après sur la diplomatie, mais il fallait être présent et je pense que Macron, le président Emmanuel Macron a bien répondu.
Vous participez à ce convoi humanitaire affrété par la France, un cargo chargé d'équipement humanitaire. Samedi dernier, reçu à l'Élysée, vous avez dû le convaincre, le président de la République ?
On a échangé, et oui, on a échangé. Je pense que non, il était déjà convaincu de la situation dramatique. C'est une plaie assez profonde. Hein, c'est le premier pansement. Et il y a surtout, je crois qu'il y a surtout une main tendue qu'un petit pays, un petit peuple. C'est un peuple aussi qui défend une démocratie. Je pense que c'est ça qui est important, la liberté aussi. Il y a une histoire commune, je pense, de la civilisation qui est importante et qui doit être défendue.
Vous décollez tout à l'heure, Youri Djorkaeff, après 8 heures. C'était important d'y aller personnellement ?
Oui, c'était important parce que c'est aussi, qui plus est, sur ces terres qui sont ancestrales et qui ont vu grandir mes grands-parents, c'était aussi important que je sois là en tant que représentant français.
Oui, Youri Djorkaeff, champion du monde français en 98. L'Arménie, c'est votre pays d'origine. Vous pensez, vous l'avez dit, à vos grands-parents, vos parents. Cet engagement ce matin, ce que vous faites, vous en êtes fier ?
Vous savez, mes grands-parents sont venus s'installer en France parce qu'ils ont fui le génocide. Ils ont eu la chance d'être accueillis par la France. Ils ont choisi la France parce que c'est un pays de liberté et c'était aussi une grande démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi symbolique que je retourne avec l'avion de la République sur le sol arménien.
Et ces valeurs dont vous parlez, c'est ce qu'elle incarne, la France, là-bas, peut-être ?
Je pense que c'est ce qu'elle incarne un peu de partout dans le monde, et je pense que c'est surtout ce qu'elle doit continuer à incarner. Et même si c'est un petit pays, même si c'est un petit conflit, et il est important, et je pense que ce n'est pas la taille des conflits qui est important, c'est les valeurs que la France défend. C'est aussi un signe comme quoi on est aussi une grande nation.
On se parle ce matin, pour être très concret, d'une question, d'une cause humanitaire. Et sur ce point, Youri Djorkaeff, le Covid ne facilite vraiment pas les choses. Quelle est la situation d'un point de vue sanitaire sur place ?
C'est très compliqué parce qu'il y a le Covid, mais il y a 120 000 gens logés dans des conditions très précaires. Et ça ne facilite pas les soins, les premières approches et puis surtout les déplacements. Il y a beaucoup de gens de la diaspora française et du monde entier qui voudraient aussi venir aider en Arménie. Et ils ne peuvent pas le faire à cause du Covid parce que c'est sûr qu'envoyer du matériel, c'est très bien, mais il faut aussi une logistique sur place qui aujourd'hui fait faux bond aux autorités arméniennes.
Et puis il y a le froid de la saison, évidemment. Alors dans le monde daté d'aujourd'hui, je cite, hein, « Partout ils sont accueillis à bras ouverts. Le pays n'a pas eu à installer le moindre camp. Lorsqu'ils arrivent, les réfugiés trouvent aussitôt un toit. » On fait état d'une grande solidarité sur place.
Oui, c'est ça. C'est dans l'autre sens. Voilà. La porte est toujours ouverte, l'hospitalité est importante. Et en Arménie, le drame qui se passe rappelle les orphelins d'un génocide. Il rappelle aussi comme quoi la solidarité est une vertu, une valeur qui est très forte à tous les peuples.
Alors, puisqu'on parle d'engagement, Youri Djorkaeff, un mot d'actualité. Nous parlons ce matin de ce producteur de musique, un homme noir tabassé par des policiers. Vos héritiers prennent position sur les réseaux sociaux, les footballeurs Benjamin Mendy, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann qui tweetent « J'ai mal à ma France ». Il y a 22 ans, vous étiez sur le toit du monde avec ce slogan qui vous a suivi, « Black Blanc Beurre ». Avec votre expérience, Youri Djorkaeff, quel regard est-ce que vous portez sur la France aujourd'hui, sur ces tensions en France ?
Il faut donner une direction à n'importe qui. Et je pense que ce soit dans n'importe quel quartier, n'importe quelle ville ou n'importe quel arrondissement ou campagne, on a besoin d'avoir un capitaine, d'avoir une direction, une vision. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à la France, c'est ce que la France a besoin.
Et sur ces crispations, vous dites quoi ? Qu'on manque d'une vision commune en France, une vision commune de la France ?
C'est d'une feuille de route. On est tous embarqués sur un pays qui est extraordinaire, mais il faut une direction claire. Et je pense que c'est ce qui avait été la force de l'équipe de France, c'est qu'on rassemblait. On rassemblait tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes, les garçons que les filles, et toutes les religions aussi, toutes les couleurs.
Un dernier mot, Youri Djorkaeff, ce matin, le monde du football est en deuil. Diego Maradona s'en est allé à l'âge de 60 ans. Alors vous êtes trop jeune pour l'avoir croisé sur les terrains, hein, vous.
Je l'ai dévoré des yeux sur devant la télé, je crois, comme chaque gamin, chaque joueur. Maradona ne sera jamais mort. Il sera toujours vivant dans nos mémoires et dans les gestes qu'il a accomplis, et surtout cette folie qui est aussi le sport. Bien sûr qu'on parlera, on reparlera souvent de ces démons, mais la beauté du football, comment un joueur venu d'un quartier défavorisé a réussi à embraser le monde par ses dribbles, par sa technique, par sa fantaisie, par son talent. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner.
Youri Djorkaeff, on est d'accord, hein, si Maradona jouait aujourd'hui, il serait au PSG.
Ouais, on aurait gagné la Champions League.
Évidemment. Merci Youri Djorkaeff. Merci d'avoir répondu à Europe 1 ce matin. Vous décollez dans quelques minutes pour l'Arménie, cette cause humanitaire dont on s'est parlé. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient venir en aide, apporter un soutien, il faut se tourner vers le fonds arménien, fondsarmenien.org. Merci Youri Djorkaeff. Bon voyage et bon courage.
Merci beaucoup. Merci de votre soutien. À bientôt.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h49 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou avant de retrouver Nicolas Canteloup. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
ce matin, Nicolas, vous lancez un avis de recherche.
Mais où est donc passé le Emmanuel Macron de 2017? Vous savez, celui qui croit à l'effort, à l'initiative personnelle, celui qui pariait sur l'émancipation de chacun. Cet Emmanuel Macron-là était devenu célèbre en 2014. Comme ministre de l'économie, il voulait libérer la concurrence, supprimer les rentes et stimuler la création de richesses. Une fois élu président de la République, on a eu de ses nouvelles de temps en temps. L'homme de la transformation de la France, qu'il avait promis d'être, a lancé au début de son mandat de grandes réformes sociales centrées sur la flexibilité, la baisse de la pression réglementaire, l'allègement des contraintes pour les chefs d'entreprise.
Et selon vous, celui que vous recherchez, il a disparu quand?
Alors ça s'est passé en deux temps. D'abord fin 2018, il y a deux ans.
Alors ça, c'est le moment de la crise des gilets jaunes.
Exactement. Le Macron de 2017 est stoppé net dans son élan. On entre alors dans une phase de gestion et on oublie la transformation. Bon, il tentera bien de se relancer, de pousser jusqu'au bout un big bang sur les retraites, mais ça coince très vite, les trains se mettent à l'arrêt partout dans le pays. Fin de l'histoire, fin de la période. Et c'est là qu'on perd sa trace. On est au début de 2020.
La crise du Covid, la grande épidémie.
C'est ça. Et depuis cette époque, plus de nouvelles du grand perturbateur, du président qui bousculait les jeunes pour qu'ils cherchent un boulot. Plus de son, plus d'image en provenance de celui qui brocardait la distribution d'un pognon de dingue, ces aides sociales que l'État verse par centaines de milliards, alors qu'en France, disait-il, les pauvres restent pauvres. Il a été remplacé par un Emmanuel Macron protecteur, qui au contraire distribue les aides et les accroît même par centaines de milliards.
Mais ça, c'est simplement l'effet de la crise, de la mise à l'arrêt de l'économie du pays.
Bien sûr, impossible de faire autrement. L'État, même dans la vision la plus libérale d'un système, il est là pour être l'assureur en dernier ressort, celui qui empêche l'effondrement et redonne au pays les moyens de redémarrer. Le Emmanuel Macron 2020 devait donc se jeter à fond dans la dépense publique, dans les aides, dans le soutien aux malades, aux victimes économiques et sociales de cette catastrophe, opération survie. Mais ce qui est frappant, c'est que ce personnage semble avoir totalement effacé le grand disparu, le Macron 2017. Il fallait l'entendre, ce Macron 2020, s'adresser mardi soir aux Français. « Je ferai tout ce que je peux, tout, disait-il, pour vous protéger. » Voilà. On sait que la crise va évidemment durer. Le chef de l'État assure même qu'elle va s'aggraver. On comprend donc qu'il ne changera plus de posture et que c'est avec ce costume-là qu'il construira sa candidature pour 2022. C'est dans 15 mois seulement. Voyez-vous, à mon avis de recherche a toute chance de finir en cold case.
Eh bien, je le garde, l'avis de recherche. Et je vous dis si j'ai des nouvelles. Merci Nicolas Bétou, l'édito de Nicolas Bétou tous les matins, le directeur du journal L'Opinion, 7h54.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des PME. D'après le journal Le Monde, Alain Griset visé pour des omissions sur sa déclaration de patrimoine. Et c'est Patrick Balkany qui est venu le coacher.
Oh, oui, c'est Balkany. Moi, je ne suis pas un colcaise, monsieur Bétou.
Je vois.
Ah, bah, écoutez, s'il y a un pro en France de l'amnésie patrimoniale, c'est Bibi. Hein. Il a oublié Griset, il a oublié pour 171 000 euros, vous dites, monsieur Béliard. Oh, le petit joueur amateur. Bah. Avec Isabelle Griset, s'il m'écoute. Avec Isabelle, on a omis, nous, 13 millions d'euros.
Bonjour. Pardonnez-moi d'intervenir, c'est Jérôme Cahuzac.
Oh.
Je tiens à rassurer Alain Griset. Effectivement, comparé à M. Balkany et à moi-même, c'est du pipi de chat. Ne t'inquiète pas, Alain, ça va passer crème.
Ça va passer crème.
Excusez-moi, j'adore m'imisquer.
Non, arrêtez tout de suite, là, les deux, avec vos CV de mafieux napolitain. Vous avez foutu mon Alain Griset dans la panade. Non, Alain, tu sais quoi? Je vais te prêter mon taquédine. Il est tout terrain, Ziad. Ziad, viens, viens. Tu peux faire une petite déclaration pour Alain Griset, une déclaration d'innocentage classique, genre Alain Griset, il n'a pas fait exprès, il est super honnête et tout type. On y va, l'équipe, vous êtes prêts? La lumière, le son, silence, moteur, action! Alain Griset, il n'a pas fait exprès de ne pas tout déclarer son patrimoine, parce qu'il est super honnête. Ah. Ouais, j'ai pas aimé la fin, mais c'est pas mal, on la garde.
7h56, c'est signé Nicolas Canteloup, que l'on retrouve à 8h45 pour la revue de presque. Alain Griset, le vrai, le ministre en charge des PME, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. 7h59, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et une vigilance orange dans les Pyrénées-Orientales, la Corse, en raison des fortes pluies qui sont à craindre à partir de la nuit prochaine. D'ailleurs, aujourd'hui, déjà, le mauvais temps s'installe sur le golfe du Lion, Languedoc, Roussillon, Cévennes, mais aussi la Corse et le sud du Tarn. Voyons maintenant l'autre partie de la France où nous aurons quelques nuages et peut-être trois gouttes, les côtes de la Manche, essentiellement sur la partie côtière. Et puis, pour ce qui concerne les autres régions, cette alternance de nuages et d'éclaircies, et nuages très présents, beaucoup plus qu'ailleurs sur la région parisienne, les Ardennes et la vallée de la Loire, des éclaircies en Bourgogne, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes et dans tout le sud-ouest, et des températures maximales entre 10 et 15 degrés, 10 à Paris, 15 à Tours, en passant par 13 à Lyon.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie. Donc, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Le mental et le moral fragilisés des étudiants assignés à résidence depuis octobre et sans perspective claire de retrouver les amphis, les profs et puis la vie étudiantine. Les présidents de fac appellent à un retour au présentiel en urgence, au moins pour les premières années. 9 minutes de tabassage. Les images vues 11 millions de fois en 24 heures, rien que sur Twitter, font réagir les grands noms du sport. Elles forcent Gérald Darmanin à dénoncer le comportement de ceux parmi les policiers qui déconne. Information Europe 1, le président Emmanuel Macron lui-même, choqué, a explicitement demandé des sanctions très claires. Dans ce journal, Donald Trump prêt à quitter la Maison-Blanche, non sans comparer le système électoral américain à celui d'un pays du tiers-monde. L'industrie allemande, grande gagnante de la course au vaccin, ou comment la Deutsche Qualität permet en ce moment de créer des emplois. Et puis, ils étaient 11 hier soir à s'appeler Maradona, toute l'équipe de Naples revêtue du maillot numéro 10 pour un match hommage à la légende de la ville.
Le détail des aides aux entreprises, la réouverture des commerces et bien sûr sa réaction après les deux enquêtes judiciaires par lesquelles il est visé. Alain Griset, ministre délégué en charge des PME, répond aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Certains d'entre eux ont à peine effleuré les bancs de la fac depuis cet été. Les 2 millions d'étudiants français ont vécu un confinement précoce et qui tend à se prolonger. Emmanuel Macron n'envisageant pas de reprise des cours physiquement dans les universités avant le mois de février.
Les jours heureux sont donc très loin pour eux. D'autant que, imaginez, vivre au quotidien dans une chambre d'étudiants et tenter de suivre les cours sur des écrans, cela demande une sacrée détermination, comme on va le voir ici à Strasbourg avec Arthur Mbaché.
Donc un contrat de session.
Une tasse de café tiède, une assiette pas débarrassée et le prof de Sciences Po sur l'écran de l'ordinateur dans la petite cuisine de la colocation de Malena, étudiante en distanciel, étudiante abattue.
Je me sens pas bien, je me sens comme dans un bocal. Et ce qui est difficile, c'est que moi j'ai l'impression de pas faire mon master parce que j'ai du mal à suivre. J'ai toujours été une bonne élève et là je pense que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris de notes dans un cours, quoi. Ouais, je suis triste, je renonce à des années qui sont charnières dans ma vie, donc... Oui, je me sens plus fragile que ce que j'étais avant, alors que j'ai toujours eu un mental d'acier, quoi.
Pour ne pas flancher dans les 9 mètres carrés de sa chambre d'étudiante, Fanny, elle, s'astreint à une discipline quasi monacale.
Donc, le réveil le matin, toujours la même heure. Moi, c'est 7h30 le matin. S'habiller, ne pas rester en pyjama pour ne pas trop traîner. Le petit café, toujours. Et après, c'est en Skype avec mes camarades. C'est agréable de voir des gens par caméra, de les voir bosser aussi, ça motive.
Vous bossez en silence, voilà. Chacun dans son coin, mais en pouvant vous regarder les uns les autres.
Exact.
Et après 2 à 3 heures de travail, la pause, 20 minutes, Netflix, une série, un épisode, pas deux. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Les présidents d'université évoquent la détresse morale des étudiants qui tuera plus à terme que le virus. C'est ce qu'ils écrivent dans une tribune.
Et ils proposent des solutions pour rouvrir au plus vite.
Oui, parce qu'il y a urgence, disent-ils. Risque de décrochage massif, détresse psychologique, on vient de l'entendre. Impossible, selon eux, d'attendre le 20 janvier pour faire un point sur la situation sanitaire. On a écouté cette étudiante abattue en master. Imaginez les premières années, complètement perdues. Leur niveau est en chute libre. Ils ne comprennent pas le fonctionnement du travail universitaire. Depuis mars dernier, ils sont complètement désocialisés, isolés, alors que ça devrait être les années de tous les possibles, comme le disait également Malena dans le reportage. Conséquence, les demandes d'aide psychologique se sont multipliées. C'est 3 fois plus selon les remontées des services de santé universitaires. Pour cette raison, les présidents d'université proposent soit de privilégier le retour en 100% présentiel des plus fragiles, donc les premières années, soit de prévoir une jauge de 50% pour toutes les promotions, et cela dès la mi-janvier, c'est-à-dire dès le passage au deuxième semestre.
Et alors Virginie, quelles sont les réponses du gouvernement ?
Le gouvernement débloque des aides en attendant de recevoir les présidents d'université, déjà pour lutter à la fois contre le décrochage et contre les problèmes économiques des étudiants. Le Premier ministre a annoncé la création de 20 000 jobs étudiants, des contrats de 10 heures par semaine pour 4 mois signés par les universités pour faire du soutien pédagogique aux premières années. Pour lutter contre l'isolement, 1 600 étudiants vont être embauchés par le CROUS pour remonter le moral de leurs camarades dans les résidences universitaires. Et puis pour faire face à la précarité étudiante, le gouvernement double les aides d'urgence pour les boursiers. Comme pour les non-boursiers, des aides pour se nourrir, pour se loger, avec en plus, pour les 740 000 boursiers, une prime de 150 euros qu'ils toucheront le 1er décembre.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
J'ajoute à propos des aides qui avaient été annoncées, elles, mi-octobre par le président de la République. 150 euros pour les bénéficiaires des APL, jusqu'à 550 euros pour une famille. Elles sont versées aujourd'hui. C'est ce vendredi également que démarre la collecte nationale des banques alimentaires, dont vous verrez les bénévoles dans de nombreux supermarchés lorsque vous ferez vos courses jusqu'à dimanche.
Violences inadmissibles. Stop au racisme. La réaction de Kylian Mbappé sur Twitter hier soir qui, à l'image d'Antoine Griezmann, Samuel Umtiti ou du basketteur Rudy Gobert, réagissent choqués par les images de ce que l'on peut qualifier de tabassage.
C'était samedi soir à Paris, un homme frappé, matraqué par des policiers qui ont dit vouloir l'interpeller car il ne portait pas le masque. La scène est filmée par une caméra de surveillance des locaux du studio de musique dont il est producteur. Hier soir sur France 2, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé la révocation des 4 policiers si les faits étaient confirmés par la justice.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens, mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Bonjour Jean-Rémy Baudot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Depuis quelques jours, certains s'interrogeaient sur le silence d'Emmanuel Macron à propos de la sécurité. Eh bien, vous nous le révélez ce matin sur Europe 1, le chef de l'État a repris personnellement le dossier en main.
Oui, quand hier matin, il a découvert la vidéo de la violente intervention policière sur le producteur de musique, Emmanuel Macron est rentré dans une colère noire. Le président était très choqué, rapporte un témoin. Il appelle Gérald Darmanin, mais les deux hommes se rejoignent car une réunion était prévue depuis la veille sur le fameux article 24 de la loi Sécurité globale. Mais évidemment, dans ce contexte, la vidéo se retrouve au cœur des discussions. Et dans cette réunion, eh bien, le chef de l'État se montre très ferme. Dans un souci d'apaisement, il demande des sanctions très claires contre les policiers concernés. Il convient d'ailleurs que le ministre s'exprimera aux 20h.
Et c'est la deuxième fois en quelques jours que Gérald Darmanin est invité à mieux tenir ses troupes.
Oui, cette semaine, Emmanuel Macron lui avait déjà demandé des explications sur la gestion du maintien de l'ordre après la dispersion du camp de migrants à République. Le ministre a dû revoir sa copie sur la loi Sécurité globale, mais c'est Emmanuel Macron qui sent monter la pression sur lui. Sa majorité est en feu et au sein même du gouvernement, la séquence crée des remous. Selon nos informations, hier soir, sur l'un des groupes de discussion des ministres, les débats ont été agités, aile droite contre aile gauche. Tard dans la nuit, un membre du gouvernement m'a même confié « Notre souci sur la sécurité, c'est qu'on n'a pas de ligne structurée et on le paye ». Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, qui a fait de la lutte contre les régimes illibéraux comme la Hongrie, son cheval de bataille, eh bien, il se retrouve accusé lui-même de dérive autoritaire. Le président sur une ligne de crête, il a besoin de Gérald Darmanin pour afficher de la fermeté et capter des soutiens à droite. Mais si ce dernier va trop loin, il risque de perdre son électorat plus modéré.
Jean-Rémy Baudot, du service politique d'Europe 1.
Vous parliez d'Emmanuel Macron. Devra-t-il faire face, comme François Hollande, à une affaire comme celle de Jacqueline Sauvage, qui avait été graciée par le président après des condamnations de la prison ? Hier, à Rouen, une femme de 42 ans, Alexandra Richard, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement après avoir tué son conjoint violent. Elle plaidait un accident, ayant tiré avec un fusil de chasse sur celui qui la menaçait physiquement.
8h08 sur Europe 1. Aux États-Unis, cela faisait des semaines qu'il n'avait pas répondu à la volée à des questions de journalistes. Donald Trump a fait un pas de plus vers un départ de la Maison Blanche.
Même si vous allez l'entendre, il est très loin encore de reconnaître sa défaite.
Bien sûr, je le ferai. Bien sûr que je le ferai, vous le savez. Mais je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici le 20 janvier, beaucoup de choses. Des fraudes massives ont été découvertes. Nous sommes comme un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, nous utilisons du matériel informatique qui peut être piraté.
Un pays du tiers-monde. Les mots de Donald Trump hier.
Un zoom ce matin sur le « Made in Germany ». Est-ce que l'industrie allemande, est-ce l'industrie allemande qui va nous sauver de la pandémie de Covid ?
Oui, c'est toute une chaîne de production qui se met en place pour fournir au monde entier en un minimum de temps les doses du vaccin. Notamment des PME allemandes, à elles seules, elles contribuent presque à relancer la machine économique. Hélène Kohl.
200% de production en plus en 2 semaines. Les congélateurs de l'entreprise Binder, basée dans le sud de l'Allemagne, peuvent descendre à moins 90 degrés. Alors pour préparer le stockage du vaccin, les régions allemandes ont passé commande dès le printemps. Et maintenant, le reste du monde frappe à la porte. Les 450 salariés font tous des heures supplémentaires, explique le patron Peter Michael Binder.
Nous n'allons pas nous lancer dans la construction d'une nouvelle usine qui ne serait prête que dans 2 ans. Et par conséquent, c'est à court terme qu'il faut trouver des moyens de produire plus.
Les frigos surpuissants coûtent 20 000 euros pièce et peuvent contenir jusqu'à 40 000 doses de vaccins conditionnés dans des flacons qui sont eux aussi made in Germany. En verre ultra résistant, le borosilicate inventé il y a 130 ans par un chimiste de Mayence. Et depuis, le brevet n'a pas changé, précise le porte-parole de Schott, Salvador Ruggiero.
C'est notre recette, un verre très pur, de qualité maximale, afin qu'aucune particule extérieure n'entre en contact avec le vaccin.
Ces flacons seront utilisés pour conditionner les 3/4 des doses de vaccins du monde entier. Schott compte en vendre 2 milliards en quelques mois. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
8h10, vous restez bien avec nous. Sur Europe 1, dans un instant, un hommage.
Celui par le football de la ville de Naples à son mythe, Diego Maradona.
A tout de suite.
L'instant Darty.
Le cinéma, c'est 24 images secondes. Et Noël sur Darty.com, c'est 24h/24.
Noël est déjà chez Darty. Jusqu'au 30 novembre, le téléviseur QLED Samsung 164 cm 4K UHD est à 599,99€ au lieu de 799,99€. Et la livraison et l'installation sont gratuites. Profitez-en vite, il n'y aura pas mieux.
Voir conditions en magasin sur Darty.com.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal. François Geffrier.
Diego Maradona enterré hier soir dans la banlieue de Buenos Aires au terme d'une veillée funèbre parfois chaude, un peu tendue, quelques bousculades. Et puis la deuxième patrie de Diego Maradona, c'était Naples. 315 buts en 7 ans sous les couleurs du Napoli. Le club jouait hier soir en Europa League. Ambiance de feu au sens propre aux abords du stade avec des milliers de torches. Blandine Hugonnet.
Dans la rue, tout le long des gradins, des dizaines de fumigènes rouges illuminent la nuit pendant de longues minutes. Pour ce dernier adieu à leur roi, les tifosi sont venus par centaines au pied de ce stade napolitain devenu mythique grâce à Maradona.
Il nous a rendu notre fierté, on le soutiendra toujours, c'est notre rédempteur, San Diego Maradona.
Naples, ça a toujours été la passion du foot, donc ce stade c'est devenu notre seconde maison comme c'était le cas pour Maradona.
Et devant les grilles du stade, un parterre de maillots bleus, de dessins ou de peluches éclairés par des bougies. Avec ses fils, Simone tenait à venir ici déposer son écharpe du club.
Je l'ai vu jouer dans ce stade Maradona. Donc j'ai eu besoin de venir ici pour célébrer ce mythe. Je suis sûr que lui aussi aurait aimé faire la fête avec nous.
Mais à 21h pile, pétard, chant, tout s'est arrêté pour une minute de silence total à l'extérieur comme à l'intérieur du stade. Sur la pelouse, toute la squadra du Napoli a enfilé le légendaire maillot numéro 10, floqué du nom de Maradona en hommage. Naples, Blandine Gonnet, Europe 1.
Votre week-end sera peut-être consacré à une balade, enfin dans une limite plus confortable, de 20 km, plus de 3 heures, ou bien peut-être à faire des courses de Noël dans des commerces rouverts. Attention, un client pour 8 mètres carrés.
Mais si vous préférez éviter la foule, les bonnes affaires se seront sans doute plutôt sur Internet avec cette vente aux enchères, certains des plus beaux vinyles des 70 000 de la discothèque d'Europe 1. Angèle Châtelier.
Là, vous avez par exemple cet album, qui est un album de Michel Berger. Ce disque est très très difficile à trouver.
Les bureaux à Richelieu, où se déroulera la vente, sont déjà encombrés de cartons de vinyle. Patrick Debureau, le commissaire priseur, tient dans ses mains l'une des pièces majeures. Puzzle, le premier album de Michel Berger. Un disque rare, sans parole, instrumental, qui mêle musique classique et rock. Autre vinyle prestigieux, disposé par-dessus les autres, un album du saxophoniste Lester Young. Patrick Debureau a classé 3000 vinyles, environ 20% de la discothèque d'Europe 1, pour leur donner une seconde vie chez de simples amateurs ou de vrais collectionneurs.
Une discothèque d'Europe, c'est une sorte de grotte. Il y a des choses qui sont des pépites. Hein. Si vous prenez par exemple Zouzou, qui était une actrice, chanteuse et mannequin, son surnom était lié à son zézément. Et donc ça, c'est une icône des 60s. C'est vraiment un trésor.
Un patrimoine sonore inestimable qui mélange tous les genres, des artistes de soul, de la chanson française, des bandes originales de films et puis des disques de grands groupes de rock aussi, comme les Doors, The Cure. Des vinyles qui n'attendent que leur nouveau propriétaire, peu importe leur budget. La mise à prix va de 10 à 400 euros.
Et ça se passe demain, 14h, sur art-richelieu.fr.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Réouverture des commerces ô combien essentielle. Mais pendant ce temps, les restaurateurs expriment leur colère, les gérants de stations de ski leur incompréhension. Mais il est où le bon sens dans certaines décisions? Eh bien, on posera la question au ministre en charge des PME, Alain Griset. À tout de suite.
Il est 8h14.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises.
Et bienvenue, bonjour Alain Griset.
Bonjour.
Dès demain, avec un protocole sanitaire renforcé, réouverture des commerces, vous vous êtes rendu compte combien ils sont essentiels pour des commerces dits non essentiels?
Vous aurez sûrement remarqué que je n'ai jamais utilisé ce terme. J'ai dit qu'on avait laissé ouverts les magasins qui distribuaient les produits de première nécessité. Et le président lui-même, dans son intervention il y a quelques jours, a redit combien l'ensemble des commerces, l'ensemble des entrepreneurs étaient essentiels dans ce pays. Et moi, j'ai compris naturellement leur volonté de travailler. C'est un message très fort. Il disait, mais nous, les aides, naturellement, elles sont indispensables. Mais nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Et donc, il est heureux qu'on ait pu, le président de la République a pris cette décision, leur permettre de réouvrir dès samedi.
Et vous êtes confiant, monsieur Griset, vous êtes confiant sur la reprise, parce que réouverture ne veut pas forcément dire reprise solide tout de suite de leurs activités.
Ben tout d'abord, on est dans une période qui est tout à fait essentielle, elle, cette période, parce que c'est la période de l'année pendant laquelle les commerçants travaillent le plus. Je pense aussi qu'il y a un besoin de consommation des Français. Et que par ailleurs, l'ensemble des professionnels a fait vraiment le nécessaire pour que, sur le plan sanitaire, les choses soient sécurisées.
Donc confiance, garantie, évidemment, dans ces commerces dès demain. Allons dans le détail, si vous le voulez bien. Ces commerçants vont donc rouvrir fin novembre. Il reste une semaine avant la fin du mois. Est-ce qu'ils pourront quand même, Alain Griset, demander l'aide du Fonds de solidarité renforcé, mais au titre du mois de novembre?
La réponse est clairement oui, sans aucun doute. Nous avons indiqué que le Fonds de solidarité renforcé, parce que, permettez-moi de le préciser, nous étions à 1 500 euros de mars à juillet. Mm-hmm. Nous avons dit au mois de novembre 10 000 euros de compensation de chiffre d'affaires. Et donc, dès le 4 décembre, j'insiste là-dessus, il faut que ça soit rapide, dès que le 4 décembre, l'ensemble de ceux qui ont été fermés pourront demander le remboursement de ce chiffre d'affaires. Et dans les jours qui suivent, l'argent devrait être sur leur compte en banque. Donc, ça doit être
les
simple
jours
et rapide.
Qui suivent. Mais pourquoi, monsieur le ministre, pourquoi on a tant de témoignages qui nous disent que ça n'arrive pas? C'est tellement long à arriver, ces aides. On n'en voit pas la couleur.
Nous avons montré de mars à juin que le Fonds de solidarité était totalement efficace, que ça fonctionnait, et ça sera le cas cette fois-ci. Ce qui est un peu plus long quelquefois, c'est les questions d'exonération de cotisations sociales, parce qu'il y a des mécanismes qui sont comme ça. Mais le Fonds de solidarité marche très bien et est efficace.
Mais donnez-nous un indicateur. Par exemple, pour le Fonds de solidarité du mois d'octobre, combien d'entreprises ou de PME ont déjà perçu les aides?
On a eu pour l'instant plus de 275 000 entreprises qui ont fait des demandes, et l'argent, dès que la demande est faite, sur le Fonds de solidarité, c'est quasi immédiat.
D'accord. Et pour les aides du mois de novembre, quand est-ce que ces aides arriveront?
À partir du 4 décembre, la demande, puisqu'on ne peut pas commencer avant la fin du mois. Donc dès le 4 décembre, l'outil de la DGFiP est prêt. Et les demandes peuvent être faites et l'argent, dans les 10 jours qui suivent, arrive sur les comptes en banque.
Et pendant ce temps, il y a, Alain Griset, la colère des restaurateurs qui rouvriront au mieux le 20 janvier. Ils maintiennent, monsieur le ministre, que leurs restaurants ne sont pas des foyers de contamination. Ils ont tort?
Mais globalement, dans tous les pays du monde... Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a des mesures de confinement, les bars, les restaurants, les salles de sport sont les premiers établissements.
Mais je vous parle de la France, il n'y a pas d'études françaises sur les contaminations dans les restaurants.
C'est vrai, il y a une étude qui est commencée, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas d'étude terminée. Tous les scientifiques se basent sur les études qui ont été faites, en particulier aux États-Unis. Il y a aussi...
D'ailleurs, pardonnez-moi, sur des fast-foods aux États-Unis. Même style de restauration que le nôtre.
Ce qui est vrai, il y en a aussi un peu en France, mais ce n'est pas traditionnellement dans les restaurants. Il y a aussi des travaux qui sont réalisés au fur et à mesure que les patients rentrent à l'hôpital. On leur demande quel était leur parcours. Et effectivement, et démontrer qu'il y a des passages dans les bars, dans les restaurants. Puis il y a aussi le fait...
Et puis au sein des familles, dans les entreprises, dans les métros.
Non mais, moi d'abord, je veux dire aux restaurateurs combien nous sommes derrière eux pour les soutenir, d'abord financièrement. Je sais que ce n'est pas suffisant, parce qu'ils veulent travailler eux aussi. Je sais aussi qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour respecter des contraintes sanitaires qui leur sont imposées, tous les guides de bonne pratique, d'ailleurs qui ont été renforcés, Nous avions négocié avec eux, il y a un renforcement mais, des...
Et c'est précisément cela qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est un profond sentiment d'injustice. Ils ont fait le job, si on peut dire, et puis ils sont fermés.
Ils ont fait le job sur ce qui leur a été demandé, très clairement. Mais n'empêche que dans un restaurant, on est dans une position pendant quelquefois une heure et demie, il faut enlever le masque, et donc cet élément-là fait que la transmission du virus est quelque chose qui peut se développer. Donc la précaution vaut pour l'instant, malheureusement, qu'on est contraint de les laisser fermer.
Pour les restaurateurs, pour les bars, pour les gérants aussi de salles de sport, il ne faut pas les oublier. Pour toutes ces entreprises, Alain Grisé, fermées administrativement jusqu'au 20 janvier, elles peuvent avoir, quelle que soit d'ailleurs leur taille, une aide de 20% de leur chiffre d'affaires, d'ailleurs par rapport à l'an passé, sur le mois de décembre. Mais est-ce qu'il y a un plafond ?
Alors, tout d'abord, le fonds de solidarité qu'on évoquait il y a quelques instants, c'était 10 000 euros au mois de novembre de compensation de chiffre d'affaires. On s'est aperçu, naturellement parce qu'on a des concertations très régulières, que pour certains restaurateurs qui avaient des chiffres d'affaires plus importants ou ceux qui avaient plusieurs affaires, que 10 000 euros n'étaient pas suffisants pour compenser cette perte. Il y avait une demande des restaurateurs d'avoir un fonds de solidarité qui prenait en charge 15% de leur chiffre d'affaires. À force de discussion avec différentes branches, Bruno Le Maire a proposé au Premier ministre qu'il a accepté d'avoir ce fonds à 20% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre,
j'ai bien compris.
Pour les restaurateurs, c'est 20% de chiffre d'affaires.
Mais y a-t-il un plafond ?
Pour l'instant, il y a un plafond qui est fixé à 100 000 euros.
Pour l'instant, bien. Ça veut dire que demain, ça peut changer ?
Pour l'instant, parce qu'on sait, mais on s'adapte. Vous avez vu que régulièrement, les dispositifs se sont améliorés, se sont adaptés pour répondre aux besoins des
Donc
professionnels.
Donc ça peut évoluer.
Il est évident que ce plafond, même à 100 000 euros, par mois quand même, de compensation, couvre 90-95% des professionnels. Hier, on nous a dit, écoutez, il y a encore quelques cas qui ne sont pas traités, nous allons regarder.
Bon, donc la décision n'est pas encore arrêtée. Monsieur le ministre, on sépare souvent l'entreprise, personne morale et l'entrepreneur. On aide d'ailleurs, et à raison, l'entreprise et l'indépendant de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer l'esprit d'entreprendre dans notre pays ?
Je ne crois pas du tout. D'ailleurs, on constate que même pendant la période de crise, il y a pas mal d'hommes et de femmes en France qui se sont installés, qui ont créé leur entreprise. Pourquoi ? Parce que...
Il y a des PME, des TPE, non, des PME
Tout d'abord, dans un premier temps, souvent, on la crée seule. Oui. Son entreprise. Parce que aussi, beaucoup d'hommes et de femmes qui se trouvent dans des situations de chômage considèrent que la création d'entreprise, pour eux, c'est le chemin demain de pouvoir trouver le moyen de vivre. Donc, il y a par ailleurs des travaux qui sont faits, même si l'actualité fait que c'est moins visible, pour permettre de mieux sécuriser le chef d'entreprise, pour éviter qu'il y ait des dangers en cas de difficulté de poursuite pour eux. Donc tout ça, ça se fait et naturellement, l'esprit d'entreprise est essentiel. Dans ce pays dans lequel quand même, il y a une protection sociale, il y a un accompagnement, il faut bien s'imaginer que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie, il ne peut pas y avoir du social.
Bon, et c'est évidemment important de le rappeler. Alain Grisé, comment on en arrive, dites-nous, à ouvrir les stations de ski en fermant les remontées mécaniques ?
Parce que dans les stations de ski, il y a des gens qui vivent. Donc en dehors des vacances. Et donc les stations de ski ne sont pas fermées. Les villes ne sont pas fermées. Par contre, ce qui a été pour l'instant décidé, c'est qu'effectivement, on ne pourrait pas permettre aux vacanciers de venir pour ouvrir leur remontée mécanique. Pour quelle raison ? Parce que simplement, lorsque c'est fermé, vers 17h, que font les vacanciers ? Les vacanciers rentrent chez eux, dans les hôtels, dans les chalets.
En France,
Et puis, il y a tendance à se regrouper, ce qui est normal.
Mais qu'ils le fassent dans un chalet ou chez eux, j'allais dire, dans leur résidence principale, quelle différence ? Véritablement, vous trouvez qu'il y a un bon sens aussi ? On a envie de vous demander, est-ce que c'est vraiment un être humain qui a imaginé cela ou un tableau Excel, monsieur le ministre ? Ça vous fait sourire ?
Non, tant que
c'est
ça
me dit,
ce qui me fait sourire, ce n'est pas la situation,
non,
parce
qu'elle
est dramatique, elle est difficile. Non, c'est que vous comparez l'être humain, le tableau Excel, comme si dans un gouvernement, je veux dire, il n'y aurait pas des hommes et des femmes qui travaillent.
Il y a parfois des énarques qui peuvent penser comme certains tableaux Excel, sans que ce soit une insulte, bien sûr.
Ça reste des hommes et des femmes. Vous savez que j'en suis pas. Mais non, il est évident que, d'abord, je veux rendre hommage aux hommes et aux femmes responsables, élus, représentants de la montagne, qui ont beaucoup travaillé. On a fait plusieurs réunions avec eux. Le Premier ministre a fait une réunion lundi dernier.
Alain Grisé. Les hommages, c'est bien, le travail, c'est mieux.
Non, mais naturellement. Il y a d'ailleurs encore une réunion de prévue lundi prochain avec le Premier ministre.
Pourquoi ? Il peut y avoir des dérogations ?
parce qu'on continue à travailler avec eux.
Oui, mais travailler pour quel...
Pour regarder de quelle manière...
Je vous donne un exemple, peut-être. Christian Estrosi demande l'ouverture des stations des Alpes-Maritimes, soutenant que le taux d'incidence est très faible dans sa région. Est-ce qu'il pourrait y avoir des dérogations en fonction de cela?
Je ne peux pas anticiper de ce qui va se passer. Je vous dis simplement qu'il y aura de nouveau une réunion. On regarde les choses. Pour l'instant, la décision qui a été indiquée au président de la République, c'est qu'il y avait aujourd'hui des risques sérieux, vous savez.
Oui. L'objectif, monsieur le ministre, il y a des réunions, mais tout est décidé. Avouez que les responsables des stations de ski l'ont appris en direct à la télévision.
Mais il y a des réunions pendant lesquelles chacun exprime ses positions, explique ce qu'il fait,
mais à la fin, vous décidez,
ce qu'il demande.
Toujours.
À un moment donné.
Oui.
Bah, à un moment donné
mais est-ce que vous écoutez?
Naturellement, vous savez, avec Bruno Le Maire, nous, notre travail, c'est de concerter, d'écouter, et je peux vous assurer que la plupart, quasi-totalité des propositions que nous faisons, que nous décidons ensuite, ont été proposées par les professionnels. Alors certes, à un moment donné, il y a aussi des conditions sanitaires. Parce que le jour, au mois de janvier, où il y aurait de nouveau une flambée du virus, et qu'on annonce qu'il faut reconfiner, qu'est-ce qui se passera? On nous dira, oui, vous avez laissé ouvert tel ou tel dispositif qui fait que... Donc nous sommes contraints de prendre des décisions qui sont loin d'être agréables, mais qui sont indispensables pour garantir la sécurité sanitaire des Français.
Pour conclure, monsieur le ministre, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice quant à votre déclaration de patrimoine pour, et je cite, « omission substantielle de votre part ». Une omission substantielle, à ce niveau-là, c'est plus de la maladresse.
Écoutez, j'ai apporté les éléments de clarification à la Haute Autorité. Il y a une procédure, donc je vais y répondre. Puis vous comprenez, l'actualité étant ce qu'elle est, mon principal objectif aujourd'hui, c'est de remplir ma mission
que le
président de la République a fait le mieux possible.
Mais c'est une maladresse. Comment on peut oublier des participations financières, un compte associé
par... Je ne peux pas commenter une procédure en cours. Nous verrons dès que tout ça est terminé.
Vous êtes confiant sur la confiance qui vous est accordée?
Naturellement. J'ai fait preuve d'honnêteté et on verra la suite.
Merci Alain Grisé d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info avec Hélène Zélani. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Quatre policiers suspendus et sans doute révoqués. Gérald Darmanin l'a annoncé hier soir sur France 2. Des images inqualifiables et choquantes, a dit le ministre, celle du tabassage d'un producteur de musique le week-end dernier à Paris. Dans cette affaire, Guillaume Biais, il y a bien évidemment les coups portés à la victime, mais aussi le procès verbal. Le récit des policiers est bien différent des images.
Ah oui, il y a un large fossé, presque un gouffre entre les deux versions. Dans le procès verbal d'intervention que nous avons pu consulter, l'un des policiers écrit « Alors que nous tentons de l'intercepter, il nous entraîne de force dans l'enceinte du bâtiment. » Or, ce n'est pas du tout ce que montrent les images. Dans la débâcle, poursuit le rapport, l'homme tente à plusieurs reprises de saisir notre arme. Invisible sur la vidéo, démenti par la victime. Tout comme la suite, nous recevons à plusieurs reprises des coups au visage. En réalité, c'est sur le producteur que des dizaines de coups pleuvent longuement. Pourtant, ils ne sont jamais mentionnés dans le procès-verbal. Tout juste, le fonctionnaire évoque à deux reprises des coups de matraque télescopique dont l'individu parvient à se saisir, peut-on lire, ce que l'on ne voit pas sur les images. Voilà pourquoi le parquet de Paris a ouvert une enquête pour les violences, mais aussi pour faux en écriture publique, un soupçon encore plus grave pour les policiers. C'est un crime qui pourrait les conduire devant une cour d'assises.
Guillaume Biais, des images visionnées plus de 12 millions de fois depuis hier sur les réseaux sociaux. Cette affaire intervient alors que la loi sécurité globale a été adoptée à l'Assemblée et arrive devant le Sénat. Une commission indépendante va réécrire l'article 24 qui pénalise la diffusion d'images de policiers. Dernier préparatif avant réouverture, nous pourrons donc faire à nouveau nos emplettes dans les commerces de proximité à partir de demain, nous promener ou faire du sport à 20 km de chez nous pendant 3 heures. Les agences immobilières pourront également reprendre les visites. Emmanuel Macron préside un conseil de défense écologique tout à l'heure à l'Élysée. Au menu, les arbitrages sur les propositions de la Convention pour le climat, notamment sur la rénovation des logements ou encore les transports. Europe 1 vous le révélait mercredi, le chef de l'État compte aussi porter le débat sur le glyphosate au niveau européen. Adrien Beck.
Sortir du glyphosate à marche forcée, c'est mécontenter les agriculteurs. Le faire à pas compter, c'est renier une promesse. Alors Emmanuel Macron espère avoir trouvé la solution, la ligne de crête, tenter de jouer cette sortie au niveau européen, non plus en 2020, mais fin 2022, date à laquelle l'Union doit trancher la question de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate. Mais convaincre une majorité de ses partenaires, c'est pas gagné, reconnaît une source proche du dossier. En fait, en faisant prendre au sujet une dimension européenne, Emmanuel Macron tente de s'extraire du cadre national dans lequel il a pour l'instant échoué. C'est un pas de côté, mais les gens continueront à se demander pourquoi la France n'y est pas arrivée, doute un député. Le changement d'échelle permettra peut-être aussi à la majorité de s'épargner un nouveau sujet de division, avec l'espoir pour Emmanuel Macron d'arriver à des avancées concrètes début 2022, alors que la France présidera l'Union européenne. Nous serons alors en pleine campagne présidentielle.
L'Argentine a dit adieu à son idole Maradona. Il a été enterré dans l'intimité familiale à Buenos Aires hier. Toute la journée, des milliers de personnes avaient défilé devant son cercueil au palais présidentiel. En France, la Fédération de football a perdu environ 24 millions d'euros depuis cet été à cause de la crise sanitaire. Chiffre que dévoile ce matin sa directrice générale Florence Ardouin. Elle attend par ailleurs la résolution du conflit sur les droits télé. Et puis il y a du football féminin. Ce soir, l'équipe de France affronte l'Autriche à Guingamp. Match qualificatif pour l'Euro 2022, coup d'envoi à 21h.
Merci Hélène Zellani. Et vous savez quoi ? On est vendredi. Un peu de musique. Alors ce que vous entendez, c'est un morceau surprise dévoilé hier. Vous les avez sans doute reconnus. Les paroles Indochine, bien sûr. Et au chant, Christine and the Queens, Chris. Le morceau s'appelle Trois Sexes, une nouvelle version de la chanson culte Troisième Sexe sortie en 1985. Et on se prend la main. Un titre qui figurera sur l'album Singles Collection 1981-2001 d'Indochine, dont la sortie est prévue le 11 décembre prochain. C'est un retour sur leurs 40 ans de carrière. 8h35 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et c'est l'heure de vous dire en un mot que le froid arrive, c'est un froid qui va commencer à se manifester dès demain. Déjà aujourd'hui, il est tout à fait modéré, mais tout à fait logique, hein, entre moins 1 et plus 10. Mais demain, nous sommes carrément sur les températures négatives sur pratiquement les deux tiers de la France. Demain, après-demain, lundi, mardi seront des journées froides. Donc on en reparlera, puisqu'il va falloir quand même commencer à protéger vos plantes. Et j'en parlerai avec Pierre de Villeneuve, 8h moins le quart ou 7h moins le quart le dimanche matin. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, bien sur la Manche, il y a quelques nuages qui donneront peut-être trois pluies. La plupart des régions sont sous une alternance de nuages et d'éclaircies. La région parisienne, les Ardennes, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, la Lorraine, l'Alsace, etc. Voilà, la plupart des régions de France. Et puis cette poche de temps très agitée sous le golfe du Lion, avec vigilance orange pour ce soir sur les Cévennes, le Languedoc, le Roussillon et la Corse. Un dernier mot pour vous dire que les températures maximales se situeront entre 10 et 17 degrés. 10 à Colmar, 11 à Paris, 12 à Caen cet après-midi, 14 à Épinal, 15 à Tours, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Toulouse et 19 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous restez bien sur Europe 1. Le cannabis, un danger pour la fertilité. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h39 sur Europe 1. Jimmy Mohamed est avec nous. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé comme tous les matins avec vous. Et ce matin, nous allons parler d'un lien qui n'est pas forcément évident, pas connu en tout cas, entre l'usage du cannabis et les testicules.
Alors oui, le cannabis altère la fertilité des hommes et le cannabis a un impact direct sur les testicules. Une étude danoise avait montré que les fumeurs de cannabis avaient 30% de spermatozoïdes en moins que les non-fumeurs et cet effet est d'autant plus important que vous fumez plus. Mais c'est pas tout, les spermatozoïdes vont aussi avoir une mobilité moins bonne. Vous savez, les spermatozoïdes, mine de rien, ils ont un petit moteur qu'on appelle des mitochondries. Eh bien, chez les fumeurs de cannabis, les spermatozoïdes sont 30 à 50% moins rapides. Ils sont plus lents, ils sont fatigués. Et puis, c'est pas tout, le cannabis va aussi altérer la forme des spermatozoïdes. Ils vont avoir une tête un peu bizarre, non fonctionnelle. Et puis, une fois qu'ils ont surmonté toutes ces épreuves, si jamais le spermatozoïde arrive jusqu'à l'ovocyte, eh bien là encore, le cannabis va diminuer la capacité à féconder l'ovocyte. Et d'une façon générale, les études montrent que parmi les hommes qui consultent pour une infertilité, eh bien 10% sont des consommateurs réguliers de cannabis.
Alors, est-ce que le cannabis aurait d'autres effets néfastes sur les testicules ?
Eh oui, alors on a parlé de l'infertilité, mais il y a un autre risque qui est encore moins connu, c'est celui de cancer du testicule. Alors, c'est 2 à 2500 hommes qui sont touchés par an, et d'après les études, les fumeurs de cannabis ont 2 à 3 fois plus de risques d'avoir un cancer du testicule que les autres. Alors, vous allez me dire, encore une fois, le lien n'est pas forcément évident entre cannabis et testicule, autant on peut le comprendre avec le poumon. Eh bien, sachez que dans le cannabis, Vous savez, du THC, c'est la molécule qui est responsable des effets psychogènes, du fait que vous allez vous sentir un peu euphorique. Eh bien, ces récepteurs sont aussi présents dans les testicules. Je fais une toute petite parenthèse. Je vous avais dit qu'il y a des récepteurs du cannabis dans le cerveau. N'oubliez pas que les fumeurs de cannabis ont un risque accru d'accident vasculaire cérébral. Ça entraîne des spasmes au niveau d'une artère. Et donc, peut-être que les jeunes seraient un peu plus sensibles à ces effets du cannabis si on leur parle des testicules. Le cancer du testicule touche les jeunes de 20 ans, c'est le premier pic d'incidence. Et donc, là, on est au mois de novembre, c'est le Movember, c'est le mois de sensibilisation au cancer du testicule et de la prostate. Et donc, d'une façon générale, pour prendre soin de ces bijoux de famille, eh bien, il ne faut pas fumer de cannabis.
Incroyable, je ne savais pas la jeunesse, la jeunesse des cas de cancer des testicules. Pour le coup, Jimmy Mohamed, c'est une maladie qui touche les jeunes en particulier. Merci pour l'alerte et l'AVC. On en parlait hier. Réécoutez notre santé sur Europe1.fr. C'est tous les matins avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Merci Jimmy, 8h42. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, vous vouliez faire un focus sur une poubelle qui pèse lourd, très lourd, celle de nos salles de bain.
Oui, alors ce n'est pas une révélation que je vais vous faire ce matin. Nos salles de bain sont des usines à déchets, on le sait. Quelques exemples illustratifs, les cotons démaquillants. Si vous prenez une moyenne quotidienne de 6 cotons démaquillants que nous utilisons, surtout nous les femmes, cela fait un total de 2190 cotons à la poubelle pour chacune d'entre nous à la fin de l'année. Le coton-tige, tiens, lui aussi, il a la part belle dans la poubelle océanique. L'association Softrider, sur 5 sites français, en a ramassé jusqu'à 16 000 lors d'une collecte. 16 000 cotons-tiges pour se rendre compte du volume mis bout à bout, c'est tout de même l'équivalent de la hauteur de 3 tours Eiffel.
Alors pour lutter contre les déchets issus de nos salles de bain, vous vouliez nous raconter une histoire.
Oui, l'histoire de Step One, une histoire qui est très belle et qui mérite que je vous la raconte. C'est celle d'Héloïse Fontaine, une chimiste de formation et qui est originaire du département à côté de chez moi, Aurillac, dans le Cantal. Auparavant, elle travaillait dans l'humanitaire où elle a été chargée de mettre au point des produits d'hygiène les plus légers possibles pour être facilement acheminée vers les camps de réfugiés de guerre ou victimes de catastrophes naturelles. Son innovation, c'est une recette en poudre qui peut être mélangée à l'eau de pluie ou à celle de la rivière sans dégrader les milieux naturels. Forte de la mise au point d'une formulation efficace et très consciente de l'urgence de trouver des alternatives zéro déchet dans les produits d'hygiène les plus utilisés au quotidien, Héloïse a voulu élargir et proposer cette option à monsieur et madame tout le monde pour lutter contre les 186 millions de bouteilles plastiques de gel douche et shampoing jetées chaque année.
Et en quoi est-ce que c'est différent de toute la gamme des shampoings, savons solides qui sont déjà sur le marché ?
Alors c'est vrai Mathieu qu'il existe déjà une offre très grande de produits version solide permettant d'éviter l'usage des contenants en plastique. Mais c'est pas vraiment bizant. Enfin, j'entends par là que c'est toujours assez compliqué de se savonner la tignasse avec un shampoing solide qui en plus mousse moyennement.
Alors, un peu d'huile de coude,
ça
finit par marcher.
C'est pas toujours le mieux. C'est vrai que c'est difficile de renoncer à la texture fondante de nos shampoings et de nos gels douche classiques. Voilà pourquoi le concept d'Héloïse, je vous le présente ce matin, il est simple et révolutionnaire, idéal dans sa salle de bain comme dans les déplacements. Il suffit d'avoir juste un peu d'eau pour émulsionner sa poudre lavante qui est parfumée et en plus écologique dans sa composition. Je peux dire ce matin que c'est une innovation. Attention, je vais dire un gros mot, disruptive, dans le sens où si tout le marché de la cosmétique et de l'hygiène se réinvente de cette manière, c'est un changement d'envergure dans la réduction et je dirais même dans l'éradication de nos déchets de salle de bain.
Merci Fanny Agostini. C'est vrai qu'on soupçonne pas pour le coup la poubelle de la salle de bain. Je sais pas chez vous Julie par exemple qui s'installe en studio.
Oui.
Elle est toute petite la poubelle de la salle de bain.
Toute petite.
Vous dites pas que c'est des millions de déchets, de bouteilles plastiques, de gel douche. Merci Fanny Agostini. Notre planète tous les matins, c'est sur Europe 1. Julie s'est installée, Nicolas Canteloup arrive, la revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque
de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on vous retrouve, Mathieu Béliard, avec plaisir pour l'actualité. Mathieu.
Mathieu. Mathieu.
Je suis, en vrai, je suis là, hein, mais.
Mathieu.
Ah. On a perdu le pastiche de Mathieu Béliard. Je ne saurais pas m'imiter moi-même. Ça va être un peu compliqué.
Alors,
me voilà.
Oui, bonjour, bonjour, ma chère.
Pardonnez-moi. Ce don d'ubiquité, c'est dingue.
Pardonnez-moi.
Bon, on avait le vrai en secours, mais c'est pas pareil.
Vous étiez parfait, parfait. Pardonnez-moi.
Allez.
Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à tous. Oui, mais je ne suis pas meilleur connu. C'est Mathieu. Mathieu Béliard. Oui, avant de parler d'actualité, je voulais rappeler cette vente aux enchères des disques vinyles de la station qui aura lieu demain, des disques rares que vous pouvez acquérir. Et puis, nous, ça nous fera du bien au niveau trésorerie pour créer vos cachets. D'ailleurs, la semaine prochaine, Europe 1 aussi, préparez-vous, vend ses chaises. Les chaises, oui. Nos journalistes vont travailler assis par terre sur la moquette, un rédac. Voilà, ils sont prêts devant des machines à écrire. Et puis la semaine suivante, Europe 1 vend les grands crus de sa cave. Plus de 1000 bouteilles d'exception.
D'accord.
Attendez. Oui, effectivement, j'ai fait un peu de tri dans la cave. Il reste plus qu'une dizaine de bouteilles en fait, et pas 1000, contrairement à ce qui était annoncé. Pas les meilleurs. Mais il y a encore quand même une côte de Beaune de 2003, qui a pas l'air vilain. Donc j'ai prévu de ranger cette bouteille ce week-end. Hein. Je m'occupe du rangement. Voilà.
On a une cave.
Allez, retour à l'actu. Bon. L'info du jour, c'est cette vidéo de violence policière contre Michel, ce producteur de musique. Antoine Griezmann a réagi en déclarant qu'il avait mal à sa France. Mal à sa France, oui. Qui pense un peu à Michel, qui lui a mal à sa tête, mal à sa bouche, mal à son nez, mal à son épaule. C'est footballeur, elle a toujours à simuler la douleur, mal à sa France. Et puis l'autre info, c'est encore du sport. On connaissait le pain sans gluten. Eh bien, le gouvernement invente le ski sans ski. Les stations de ski peuvent ouvrir, mais les remontées mécaniques doivent rester fermées. On va faire du ski à plat. On va faire un point tout de suite à Courchevel avec notre envoyé spécial. Pierre Fula. Bonjour Pierre.
Ah, chouette.
Oui. Allô.
Pierre Fula.
Allô, oui, vous m'entendez? Oui, oui, si. Oui. Pierre Fula en direct de Courchevel. De Courche, comme disent ceux qui ont le pognon pour se payer une semaine à Courche. Je pique le boulot à Laurent Cabrol avec un point météo. Et il a un peu la même voix que moi, d'ailleurs. Oui, c'est une espanquée. Il a neigé cette nuit. Une neige souple et ferme, l'équivalent en poudreuse d'une soirée d'anniversaire chez Diego Maradona.
Bon, mais dites-nous, ça bouge un peu dans la station, Pierre?
Écoutez, ma chère Julie, cette neige est idéale pour accueillir tous les skieurs qui ne sont pas là et qui ne pourront pas venir de toute façon. Pas de skieurs, pas de surfeurs, pas de bobsleigheurs, pas de lugistes, pas non plus l'élégante clientèle russe habituelle. Personne dans les restaurants d'altitude qui vendent un Twix pour 15€. J'ai juste aperçu, pour tout vous dire, deux marmottes en 15 jours. Voilà. Bref, vous l'avez compris, chers auditeurs d'Europe 1, on se fait yesh, d'accord, mais sans les combis fluo, les michetots d'Instagram et les touristes russes, c'est quand même beau, la montagne.
Mais quel tableau! Merci beaucoup Pierre Fula, un régal. Les stations de ski peuvent donc rouvrir, mais les remontées mécaniques seront fermées. Bonjour Jean Castex, c'est pas très intéressant comme vacances à la neige, hein, du coup.
Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à papy et à mamie qui ne pourront malheureusement pas skier cette année et se péter le col du fémur. Oui, je le dis, les stations de ski peuvent rouvrir à condition qu'on ne puisse pas y faire de ski. Mais il y a, vous l'avez compris, 1000 autres choses à y faire. Regardez, je ne sais pas, regardez des magasins de chaussures de ski, regardez des boutiques de vêtements de ski, regardez des endroits où à l'époque on faisait du ski, voire même acheter des skis.
Mais ne pas s'en servir.
Exactement. Vous savez, on peut apprécier un objet pour ce qu'il est. Et les stations de ski deviennent la destination idéale pour les Français qui n'aiment pas faire du ski, du coup. Et ils sont nombreux, les Français qui n'aiment pas faire du ski.
Vous êtes sûr, vous, qu'il y en a
pas beaucoup.
Par exemple, je ne veux pas exposer ma vie privée, mais ma femme a horreur du ski.
Tiens.
Du coup, je vais l'amener au ski cette année. Nous irons sur un sommet montagneux pour crier, par exemple, Ricola ! Comme dans la publicité, elle adore cette publicité. Et où, quand te reverrai-je ? Pays merveilleux ! Vous voyez de quel pays je parle ?
Vous pensez que les Français peuvent comprendre cette politique, Jean Castex ?
D'ouvrir les stations de ski sans les remontées mécaniques. Écoutez, ce qu'ils vont comprendre les Français, comme dirait l'idole des skieurs Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. J'annonce par ailleurs la réouverture des piscines. Hein? À condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'eau dans les bassins. La réouverture d'un certain nombre de restaurants à condition qu'ils ne vendent pas de nourriture. Vous n'aurez qu'à regarder les assiettes. Vous savez, ça leur suffit pour grossir.
Oui,
regardez juste assez. La réouverture des jardins zoologiques, mais sans les animaux.
Oui,
des radios, mais sans les auditeurs.
Jean Castex, allons.
Bon, Jean. C'est bon, je crois que tu as assez parlé. Là, regarde Madame Julie, elle est consternée. Elle a provoqué une rupture d'anévrisme à 20% des auditeurs et le reste saigne du nez. Vous savez, chère Julie, chère Mathieu, pourquoi je l'ai choisi ?
Non.
Parce que je ne voulais pas de quelqu'un qui me fasse de l'ombre pour 2022, c'est ça la vérité. Mais là, j'ai peut-être tapé un petit peu fort,
mais c'est réussi en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez, on va reparler de la mort de Maradona maintenant. À Marseille, ville du foot par excellence, les joueurs ont porté un brassard noir et on est en ligne avec Jean-Claude Godin. Bonjour, Monsieur Godin.
Oui, bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard. Écoutez, oui, c'est très dur ce matin. Je suis allé voir les joueurs. Nous avons regardé ensemble des vidéos de Diego Maradona. Et ils étaient bouleversés. Ils m'ont demandé de quel sport il s'agissait. Que ça avait l'air super, qu'ils aimeraient bien jouer à ça eux aussi.
Au foot ?
Et oui. Ça a été une révélation pour eux. Ils ont découvert le football. En fait, ils étaient persuadés qu'ils étaient un collectif de danseurs hip-hop. On s'explique, les 13 branlés d'affilée en Ligue des Champions. Bon, après, ils sont nuls en hip-hop aussi, tout pour vous dire.
Mais tout Marseille doit être triste, hein ?
Mais bien sûr, tout le monde est triste. Moi, je suis aux côtés là, de jeunes auto-entrepreneurs des quartiers nord, pour vous dire l'heure qu'il est, qui sont passionnés de foot et ils sont sous le choc. Ils vont vendre avec un brassard noir.
Mais ils vendent quoi ?
Ils vendent quoi ? Ils vendent des... Attendez, je me renseigne. Attendez, vous vendez quoi en fait ?
Monsieur le maire, de tout, on vend de tout. À la pièce, à la tonne, au kilo. Elle veut de quoi votre blondinette là ?
Bon, voilà, Madame Julie, ce sont de petits maraîchers, des épiciers, des marchands d'herbes de Provence.
Non, mais il représentait quoi pour vous, Maradona ?
Et un client surtout, hein.
Ta gueule.
Bon, voilà, ils sont bouleversés, vous avez compris. Allez, on passe à autre chose. Vous avez d'autres sujets quand même à la matinale, non ?
Merci, Monsieur Godin, ça ira pour aujourd'hui. Allez, Jean Castex l'a dit, les stations de ski pourront recevoir du monde à condition de ne pas skier, on a bien compris, pour que, je cite, « profiter de l'air pur de nos belles montagnes ».
Ah, la montagne, les Pyrénées, pourtant que la montagne.
Oui, Jean Lassalle, bonjour. Dites-moi, bonjour. Vous approuvez Jean Castex, donc ?
Oui, vous venez, amis touristes, venez profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Ce mélange de senteurs de bergerie, de reblochons fermentés, de lisier et de mouflons. Ce parfum unique, quand vous rentrez chez vous et que vous enlevez vos chaussures de ski.
Oh non.
Vos pieds qui ont fait un effort, qui ont transpiré, sué dans la sueur de dizaines d'autres pieds précédents.
Oh là là.
Ça sent la convivialité, ça sent le partage, ça sent les vacances.
Bon, écoutez, à propos.
Ça sent tout court.
Oui, ça sent tout court. Si vous avez besoin d'un auteur.
La montagne, belle. J'adore Jean Vera.
Ah, Vera ? J'adore Jean Vera ? C'est malade. Bon,
Bon, à propos de ski, donc Jean Castex interdit le ski alpin à cause du virus, bien sûr, et pour ne pas saturer les hôpitaux si des gens se blessent, s'ils chutent.
Mais écoutez, écoutez, il n'a jamais vu de montagnard. C'est pas demain qu'il va franchir le pic du midi. Il a déjà du mal à franchir le pic de l'épidémie. Oui, j'aime bien détendre l'atmosphère avec quelques jeux de mots.
Ouais,
à
voilà,
la
c'est
montagne,
bien,
vous savez, à la montagne, c'est une image pour le porter, mais qui n'est pas la vraie la réalité. À la montagne, même, je dis, si on chute, on ne va pas directement à l'hôpital. Et si la jambe n'est pas tordue à plus de 90%, on se la remet en place en la cognant fermement contre rocher.
Oh là là, non, arrêtez.
Et quand on entend un petit crac comme ça, ça veut dire qu'elle est redevenue droite.
Oh mon Dieu.
On cale le tout avec une attelle en sapin, en épicé, enfin une sapin de chez nous. On boit un petit génépi pour se détendre et voilà. Pas la peine de solliciter à tout va un médecin pour un léger bobo.
Non mais de toute façon, on parle de ça, mais on ne pourra pas skier. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en cette saison? À la montagne.
Mais des centaines de choses à faire. Des randonnées.
Des randonnées hein, dans la neige.
J'ai mes bottes que j'ai faites moi-même en enfilant mes pieds directement dans des castors. Dans des castors que j'ai préalablement vidés, bien sûr. Mes entrailles, bien sûr, je ne sais pas.
Ah
sinon,
non, oui,
ça
bah
crée une odeur malfaisante.
Allez.
Ça fait comme des chaussons. Des chaussons poilus à poil long. Sinon, on peut aussi boire de l'alcool. Ça détend. C'est des petites activités rigolotes. Ça détend. J'ai ami qui fait d'ailleurs de la liqueur de raclette. Wow. Alors, je vous donne la recette de M. Mariotte le week-end qui est très bonne recette.
C'est quoi ça?
C'est de la graisse. D'ailleurs, je n'ai jamais parlé. C'est la graisse de la raclette que vous faites suer dans un alambic.
Oh là là.
C'est très bon. C'est très bon. Attention, il faut éviter d'en avoir dans l'œil. Hein. Ça fait fondre la rétine. Mais vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez faire? Mille choses dans la montagne. Vous pouvez aussi aller vous baigner. En plus, avec le réchauffement climatique dedans. Se gargarise, et la raison, Fanny Agostini, les lacs sont déjà à plus de 8 degrés. On peut barboter du coup pendant des heures, il y a tant à faire à la montagne. Mais venez, venez donc, je vous l'accueille.
On arrive à la montagne dans la salle.
Et donc rendez-vous à 11h demain, si j'ai bien compris, la table des bons vivants, Laurent Mariotte, la recette de la liqueur de raclette. Hein. Promesse de Jean Lassalle, dans la voix de Nicolas Canteloup. Bravo Nicolas, bravo Julie, la revue de presse qu'à retrouver sur Europe1.fr. 8h58, Philippe Vandel est là, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour, c'est le renouveau des news lettres par mail. Avant, vous vous souvenez, on les classait dans les spams à la poubelle sur l'ordi, mais non, elles reviennent à la mode. Pourquoi? Comment ça se finance? Réponse avec deux créateurs de newsletters, Anaïs Carayon de Brain Matin et Jean Abiatessi de Bulletin. Laurie Tillman ensuite, l'ex-Miss France qui présente ce soir sur France 3 une longue émission qui va plaire aux nostalgiques. Elle s'appelle « Allez, viens, je t'emmène » dans les années Carpentier. Et puis le contre-ténor français à la voix d'or, Philippe Jarouski pour son nouvel album « La vanita del mondo, la vanité du monde ».
Avec Philippe Vandel jusqu'à 11h sur Europe 1. Je vous souhaite un très beau week-end. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller samedi et dimanche. Je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.